Dans le Tempo, épisode 16. C'est parti. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de DLT. On est là pour parler de musique. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous le savez. Et sinon, bah, bienvenue. Vous êtes tombé sur le meilleur podcast musical de la Terre, du monde. Je pense qu'on peut le dire en toute humilité. En tout cas,
ils ont pas peur des mots. T'es le seul podcast. En ce qui me concerne, c'est le seul podcast.
C'est le seul. Je suis assez d'accord. N'écoutez pas les autres. En tout cas, on se retrouve pour cet épisode 16. On a décidé de mettre de côté la musique populaire, pour une fois. On a déjà pas mal parlé de métal, de rap, de musique électronique. Et il était temps que l'on s'arrête cette fois sur la musique classique. Et je suis évidemment accompagné de l'incroyable, vous l'avez déjà entendu, l'incroyable Chrono Musique. Ici, on l'appelle
Bonjour.
Michel.
Ça
Michel,
va,
quoi, pas mal. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tout va bien?
Ouais, je fais que dormir. Je dors. J'arrête pas de dormir. Je me repose au quotidien.
C'est pas mal de se reposer au quotidien.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission, Michel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et avec qui?
En général ou là maintenant?
Là maintenant, je pense.
Là maintenant, ben, on va parler de musique classique. Je fais des guillemets avec mes doigts. Vous synchroniserez les guillemets. Puisque on va déjà se poser la question de la terminologie très, très, très vite. Et pour ça, on est avec Val et Armen. Alors, Val est comédienne. Donc, tu fais du théâtre, un peu de cinéma. Tu es musicologue de formation. Tu tiens la chaîne YouTube Valso Classique, dont le but est de décrypter et vulgariser le monde de la musique classique, justement. Donc, comme par hasard,
ça tombe bien.
C'est comme si Salman faisait bien
c'est
son
fou.
Taf. Et on a avec nous Armen, qui est musicien professionnel dans la musique classique. Donc toi, tu es guitariste classique, diplômé du CNSM de Paris, lauréat de nombreux concours internationaux, notamment le GFA. Peut-être tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est.
Ouais.
Et tu es fondateur du duo guitare-violoncelle, ce qui s'appelle Solea.
Ouais,
t'es aussi vidéaste professionnel, donc t'as créé Luzankar Productions, donc tu produis de la vidéo, tu fais des photos dans le monde de la musique classique, etc. Donc
ouais.
Tu travailles avec de nombreux artistes, des institutions, des labels, t'as travaillé avec Warner pour des captations live, etc. Est-ce que ces présentations vous vont? Est-ce que vous voulez rajouter des petites choses?
Non, moi ça me va très bien, je reviendrai très très vite sur le terme de musique savante en opposition à musique populaire.
Idem.
Let's go.
Alors, oui, on a clashé dès le début. Hein,
on a préparé un peu cette émission et évidemment l'idée justement c'est de revenir un peu sur, de confronter mythe et réalité. L'idée c'est un peu de se dire que la musique classique, alors vous c'est votre univers, vous le connaissez bien, que ce soit toi, Valentine, Val, Armen Donayan d'ailleurs, on n'a pas dit ton nom de famille, mais si les gens veulent chercher ce que tu fais.
Oui,
et,
c'est plus pratique.
Exactement. Et l'idée, c'est voilà, de se dire que c'est une musique quand même qui n'a pas encore atteint le grand public peut-être, ou en tout cas qui est assez méconnue. Si je prends mon exemple, moi j'avoue très volontiers que j'ai une culture en musique classique extrêmement limitée. J'ai l'impression de ne pas connaître la musique classique. Alors on pourra évidemment développer, apporter de la nuance à tout ça, mais justement travailler un peu, se questionner autour des mythes et à la fois de la réalité de ce milieu avec des gens qui le connaissent réellement. Est-ce que de l'extérieur on a beaucoup d'a priori? Est-ce que certains se confirment ou pas? Et donc l'idée voilà, c'est de se questionner un peu autour de tout ça. Et j'aimerais bien qu'on démarre avec une première petite question très simple. Quel est le cliché, le stéréotype autour de la musique classique qui vous énerve le plus? Val, Armen, j'imagine qu'on vous pose plein de questions quand vous parlez de musique classique. Et il y a certainement un truc qui revient et qui vous énerve un peu. C'est quoi?
Alors, qui commence?
Vas-y, parce que je réfléchis lequel.
Ouais.
Bah, moi, ce serait plutôt le côté élitiste, en fait, qu'on a tout le temps, le côté hyper cérémonial, le solfège, le côté vraiment rébarbatif de la musique classique, qu'on se trimballe depuis vraiment trop, trop longtemps, qui est, je pense, dans la bonne tendance. On pourra développer un peu après, mais ça va plutôt dans la bonne direction, je trouve, tant au niveau de l'enseignement, déjà, dans les conservatoires, qui a vraiment énormément changé. Enfin, aujourd'hui, tu parles de musique classique à n'importe qui a entre 40 et 60 ans. Et pour eux, s'ils ont fait de la musique quand ils étaient petits, le solfège, pour eux, c'était une torture, quoi. Alors, la plupart, hein, y a forcément des exceptions, toujours. Mais pour la plupart, c'était une torture. Et ils ont arrêté la musique à cause du solfège. Vraiment, c'est 80% des gens de cet âge-là, de cette génération-là qui m'en parlent, c'est le constat. Et là, petit à petit, les professeurs sont de mieux en mieux formés. Et du coup, alors le solfège, alors qu'il a un peu changé de nom, formation musicale, on a essayé un peu de changer les termes aussi, mais la manière dont c'est enseigné est vraiment extrêmement différente. Mmh. Et on essaye de vraiment mettre l'accent sur la pratique, alors que pendant très longtemps, c'était indispensable d'avoir la théorie avant de commencer l'instrument. Et même si en musique classique la théorie est indispensable, elle est indissociable de la pratique. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que dans ce sens-là, ça va dans la bonne direction.
Et on essaiera de revenir en détail sur la question un peu peut-être de l'académisme entre guillemets ou l'enseignement. Encore une fois, avec un regard extérieur, c'est vrai qu'on peut avoir ce cliché. Et toi, tu le dénonces en l'occurrence. Tu nous dis, c'est certainement ce côté peut-être un peu trop strict, très rigide en fait, de la vision qu'on a comme ça de l'extérieur de la musique classique c'est toi, c'est le cliché un peu qui t'énerve.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je te laisse Val du coup pour la.
Ouais, moi ça me fait rire. On reviendra là-dessus ce que tu dis par rapport au solfège parce que on me l'a encore dit la semaine dernière. Genre le côté tous les gens que je connais ont été dégoûtés par le solfège et voilà. Moi je pense que ce qui m'énerve le plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, ma toute première vidéo en janvier 2018, 5 clichés sur l'opéra et c'est l'opéra et la musique classique en général. C'est un truc de riche, c'est un truc de vieux, c'est un truc long et chiant. Voilà, tous ces trucs-là. Enfin, moi, quand je dis j'aime la musique classique, je bosse là-dedans, les gens me font « Ah ouais ? Genre toi ?» C'est comme si, parce que j'étais jeune et que, tu sais, je vis en mode étudiante et tout, genre c'est un problème. Et en fait, voilà, moi, c'est ça. C'est vraiment le fait que les gens imaginent qu'il y a un profil à écouter de la musique classique et que, visiblement, je ne colle pas du tout à ce profil. Voilà, ça c'est le cliché qui m'énerve, je pense.
Michel, est-ce que, alors, parce que là on a eu entre guillemets des clichés, des stéréotypes énervants pour ceux qui connaissent ce milieu, est-ce que toi, qui le connais un peu, il faut le dire quand même Michel, mais qui est plus extérieur quand même, qui n'est pas professionnel exactement
dans la musique classique. C'est sûr.
Est-ce qu'il y a un cliché, un stéréotype que tu as ou que les autres ont qui peut t'énerver? Mais toi aussi, que toi, tu peux avoir sur la musique classique, t'as conscience quand même que c'est un peu un cliché, par exemple?
Ben, moi, je pense que dans beaucoup... En tout cas, en ce qui concerne la musique, tu vois, dans beaucoup de cas, le cliché, il vient de quelque part. Après, on n'est jamais limité... Enfin, faut pas se limiter à ce truc-là, tu vois. C'est Desporuti, un rappeur, qui dit « Je pense pas que généraliser, c'est commettre une faute, c'est juste faire un exercice de maths comme un autre. » c'est la somme d'expériences personnelles de plein de gens qui fait que dans l'inconscient collectif, il y a cette image-là qui infuse. Mais je pense qu'effectivement, c'est en bonne voie. Bah, déjà, il y a pas mal de chaînes YouTube, entre autres, tu vois, qui te montrent un peu à quel point ça peut être super intéressant et t'es pas obligé d'être vieux et d'avoir un monocle pour écouter de la musique classique, quoi.
Ouais, enfin non, mais du coup, ça revient à ce que je disais sur le... Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça vient de bases réelles, ces préjugés-là. Donc, c'est à nous, musiciens, de faire en sorte que ça change. Et on souffre d'une époque, justement, où on a cherché à mettre cette musique-là sur un piédestal, à la rendre élitiste et à l'opposer à ce qu'on appelait, à ce qu'on appelle encore la musique populaire. Et moi, enfin, genre ça, donc tu nous envoyais un petit papier avec une préparation du podcast. Et genre moi, par exemple, enfin, ces mots-là, populaire, l'opposition populaire savant, dans la musique classique, dans le monde de la musique classique, c'est quelque chose que, enfin, t'entends plus trop parler, quoi. Après, voilà, il y a toujours des réacs, toujours. Il y aura toujours des gens qui font ça, mais on serait plus sur l'opposition, par exemple, musique écrite et musique improvisée, par exemple, ou transmission orale, transmission écrite. Mais
tu sais quoi, Armen, c'est parfait. Pardon, je t'interromps, mais parce que ça nous permet en fait tout de suite d'entrer dans la première partie de ce podcast, le premier thème, qui est en l'occurrence un questionnement autour du vocabulaire du classique, justement, des termes utilisés, des oppositions éventuelles entre les termes, etc. Et je vais prendre des exemples. On peut parler effectivement de musique savante, de musique classique, de musique contemporaine, de musique moderne, de musique orchestrale. Alors évidemment, tous ces mots ne sont pas du tout des synonymes, mais suivant les cas, parfois ils peuvent être utilisés de manière un peu synonymique, ou en tout cas, ça manque un peu de clarté peut-être pour les gens qui ne maîtrisent pas exactement. Même le terme musique classique, en vérité, il y a certainement à approfondir, parce que pour certains, c'est une période, si je ne dis pas de bêtises, et non pas un genre musical en soi. Alors, pour commencer, justement, est-ce qu'on se méprend sur la définition de la musique classique? Qu'est-ce que ça signifie normalement, musique classique?
Mais je pense que il faut revenir à un truc qui est avant, c'est que aujourd'hui, à l'époque où on aime bien mettre les choses dans des cases, on aime bien donner des noms aux choses et on aime bien faire entrer les choses dans ces noms et dans ces cases. Donc nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a appelé cette musique-là la musique classique Et donc, on a besoin de faire entrer ça. Mais à l'époque, les mecs qui jouaient ça ne se disaient pas « je fais de la musique classique ». Et effectivement, comme tu le disais, c'est une période. Donc, il y a le classicisme avec le romantisme après, la période baroque avant et tout ça. Donc, il y a déjà cette incertitude de la différence entre la période classique, le classicisme et ce qu'on appelle la musique classique. Et en fait... c'est très difficile de faire une définition parce qu'on parle de musique savante, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste, c'est pas savant. On parle aussi de musique sérieuse, en disant que la musique classique est sérieuse, donc ça veut dire que les autres musiques, c'est de la musique pour rigoler. Et moi, ça me fait toujours rire, parce que dire aussi musique populaire, mais la musique classique, c'était super populaire. Ça a été écouté. Les salles n'étaient pas remplies que par des bourgeois, que par des riches, que par des mécènes. Les salles étaient aussi... enfin, même les salles, c'est pour que tout le monde puisse avoir accès à cette musique, puisqu'à la base, les riches, entre guillemets, faisaient venir ça, la musique dans leur salon. À partir du moment où on fait venir du public, c'est du public, c'est populaire. Donc en fait, c'est très étrange d'avoir ces terminologies. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette terminologie, elle sert à, dans l'inconscient collectif, de dire « ah ouais, musique classique, c'est violon, contrebasse, violoncelle, percussion, cuivre, vraiment tout ça. Orchestre symphonique, parce que tu parlais de musique orchestrale, je pense que c'est le terme plus juste, entre guillemets, c'est symphonique. » Et pour finir là-dessus, tu parlais de musique moderne, contemporaine. Ça me fait beaucoup rire aussi parce que, du coup, dans 100 ans, on va appeler ça comment? Puisqu'on sera dans le contemporain, dans le moderne. Et donc, notre musique, enfin, voilà, c'est toujours difficile d'avoir du recul. Et donc, tous ces termes sont assez compliqués et pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui veulent s'y intéresser, et pour nous. Parce que chaque fois, on doit prendre des pincettes, quoi. Moi, je déteste dire musique classique. C'est comme danse classique, c'est avec les chaussons roses et tout ça. C'est plein de... Voilà, on met les trucs dans des cases. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Qu'est-ce qu'on utilise comme terme quand on travaille, bon, à défaut d'un meilleur mot pour le moment, on va encore parler de musique classique. Quand on travaille dans ce milieu-là, comment on définit son milieu, sa propre musique? Est-ce qu'on parle de classique, justement?
Oui, on dit classique. Ouais. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais moi, je dis musique classique. C'est encore plus...
Oui, parce que même si c'est si ça veut pas dire grand chose, tu dis le musique classique et tout le monde voit à peu près, je dis bien à peu près, de quoi tu parles. Donc ça permet de pas te lancer dans une discussion d'une heure juste pour expliquer que tu joues la musique classique. Après voilà, si on me demande plus en détail, voilà, tu peux expliquer que ça correspond à en fait 400 ans, enfin voire plus, mais en tout cas, enfin je sais pas, ma par exemple pour mon répertoire, ça représente à peu près 400 ans de musique et que c'est réduit à ce nom classique. Mais oui, moi je dis musique classique, je me définis comme un musicien classique. C'est
en plus, il y a un truc qui me fascine en plus, c'est que toi t'es guitariste et que même moi au tout début, moi j'ai plutôt baigné dans l'opéra toute mon enfance, quand j'ai découvert qu'il existait des guitaristes classiques. Pour moi, la guitare, c'était rock'n'roll, tu vois. Quand j'ai découvert tout le répertoire de guitare classique, c'était aussi une découverte. Donc, à mon avis, toi, tu dis, je travaille dans la musique classique. Les gens te disent, tu joues quoi? Ils attendent violon, piano, clarinette. Et toi, tu dis, je fais de la guitare. Ils disent, classique. Enfin, tu dois avoir ça aussi, quoi. Pour toi, ton instrument, c'est particulier.
Bah, pour les gens qui connaissent la musique classique, ça va. Mais pour les gens qui y connaissent pas trop, donc début du musique classique, bon, guitariste classique. Et du coup, c'est genre les classiques. Donc, genre, je joue du Johnny, genre des trucs, quoi. Donc,
ah ça, ouais.
Souvent, il y a des petits quiproquos comme ça. Ouais, guitare classique, c'est vraiment particulier. Parce que même dans le monde de la musique classique, on n'est pas les seuls, hein, mais on est un petit peu à part, quoi. En termes de, notamment de répertoire. En fait, la guitare classique, moi, l'instrument que je joue, c'est un instrument qui est pas si vieux que ça. Comparé, par exemple, je sais pas, tout le quatuor à cordes, le violon, l'alto, tout ça, qui sont des instruments qui existent dans leur forme actuelle depuis, alors je veux pas dire de conneries, mais 300, 400 ans, un truc comme ça. Alors que la guitare, moi, l'instrument que je joue, genre, il évolue encore. Genre, moi, par exemple, la guitare que je joue, la manière de fabriquer l'instrument et de composer pour l'instrument est encore en train d'évoluer maintenant. Donc, on n'a pas un répertoire, on est obligé de piquer un peu le répertoire des autres. Donc, nous, par exemple, en guitare, je joue beaucoup de ce qu'on appelle des transcriptions. Donc, je prends des morceaux qui ont été écrits pour le piano, pour le violon, enfin, pour plein d'autres instruments et on l'adapte. Voilà. Donc, c'est assez compliqué d'expliquer ce que je fais en général.
Justement, pour revenir un peu sur les mots, ok, on a compris que la musique classique n'est pas, c'est pas l'idéal comme terme, mais à défaut, c'est celui qui est quand même beaucoup employé, y compris par vous-même. Et pour tout ce qui gravite autour de la musique classique, alors on peut mettre de côté le contemporain, moderne, etc., parce qu'effectivement, ce sont des périodes. Même si on peut s'interroger, ça démontre quand même d'un rapport au temps, à la temporalité particulier quand même dans le classique. Et est-ce que c'est pas ça d'ailleurs qui fout entre guillemets un peu la merde? C'est-à-dire que, à l'inverse de beaucoup de musiques qui sont nées au cours du XXe siècle, qui ont une histoire extrêmement récente en réalité, il n'y a pas encore cette nécessité de les classer aussi en fonction des périodes, parce que l'histoire est tellement riche, le catalogue est tellement énorme, etc., que ça complique peut-être les affaires aussi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah si, carrément, pour rebondir ce que tu disais Val tout à l'heure sur le fait que comment on appellera la musique d'aujourd'hui dans 100 ans, en fait la question se pose même, tu parlais de la musique du 20e siècle, c'est de la musique qui a été composée il y a plus de 100 ans, et on appelle ça musique contemporaine, ça veut déjà absolument rien dire. En fait, c'est l'occasion de définir, c'est compliqué de le définir, mais ce qu'on entend aujourd'hui par musique contemporaine, dans la plupart des cas, c'est juste une musique où il n'y a pas de tonalité. En tout cas, c'est mon avis là-dessus, mais je pense pas dire de bêtises, mais ça permet d'englober en fait toute la musique qui n'a pas vraiment de mélodie. Donc je sais pas si c'est clair ce que je dis, je sais pas, par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu de la musique contemporaine, ce qu'on entend par musique contemporaine ou pas vraiment? C'est assez dur à expliquer. En fait, c'est un type de musique où on n'a pas les mêmes attentes que dans la musique dite classique. Je vais arrêter de dire dite parce que je le dirai jamais. Mais j'ai expliqué que j'étais pas d'accord avec les termes, maintenant je peux les utiliser, c'est bon. Mais dans l'idée générale, la musique classique, c'est des belles mélodies, c'est des jolis airs au violon, au piano, des trucs très doux, de la musique où la présence de la mélodie est super importante et où l'émotion vient souvent, très souvent, de la mélodie. Mmh. Et la musique contemporaine, ce qu'on met dans la case musique contemporaine, c'est de la musique justement où il y a très peu, voire des fois pas de mélodie. Et du coup, c'est une manière un peu de mettre de côté toutes ces musiques-là qui plaisent moins, qui plaisent encore, enfin qui touchent un public encore moins large que la musique classique. Mmh. Et par exemple, en tant que musicien classique, ça peut être parfois compliqué de placer des œuvres de musique contemporaine dans des programmes de concerts, parce que on arrive vraiment dans une niche.
Val, est-ce qu'on est d'accord que musique moderne, musique contemporaine, ça rentre quand même dans le spectre de la musique classique, ou est-ce que c'est vrai?
Ouais. Je pense que cette musique qu'on appelle contemporaine, donc la musique du XXe siècle, musique moderne et tout ça, ça fait partie de la musique classique. Pourquoi? Surtout parce que ça se développe en réaction au courant précédent. Et c'est souvent ça dans la musique et dans l'art. En général, on réagit par rapport au courant précédent. Le baroque, c'est très dans la virtuosité, le rococo, les extrêmes. Le classicisme, c'est plus épuré, plus simple. Alors, les gens vont m'insulter en me disant que je résume l'histoire de la musique comme ça. Puis le romantisme, on remet les sentiments en avant, et puis on met un peu moins de sentiments. Et puis on arrive au début du XXe siècle avec cette envie de d'épurer complètement, de perdre les repères. Et c'est comme ça un peu de dire qu'on n'a plus de mélodie. En tout cas, on n'a plus de mélodie que nous, on est habitués à repérer. Et c'est vraiment à l'image de l'art, parce que j'ai étudié l'histoire de l'art aussi, et c'est vraiment... vous prenez Kandinsky et ses tableaux où il y a juste des traits, des couleurs, des trucs, on prend un pinceau, on jette sur la toile, et puis ça fait un truc, et on se dit « Waouh, ça c'est hyper !» Et en fait, à l'époque, ils se disaient, Kandinsky, Schoenberg, tous ces artistes-là, Stravinsky, ils se disaient vraiment, avec cette musique atonale, donc tous les tons sont égaux, ils disaient, en fait, nous, on fait une musique qui est tellement évoluée, qui est tellement incroyable, que les gens d'aujourd'hui peuvent pas comprendre, on nous comprendra dans le futur. Alors, ce qui est génial, c'est que là, on arrive à 100 ans après, je crois qu'on les a toujours pas très bien compris. Donc voilà, mais qui sait, dans 150 ans, on les aura complètement compris. Et voilà, mais donc cette musique, pour moi, la musique contemporaine, qui est très intéressante à écouter, mais personnellement, voilà, moi, c'est pas mon kiff, elle fait partie de la musique classique, parce qu'elle est en réaction à tout un développement de musique dite classique. On va arrêter de dire dite classique, c'est un veto pour tout le reste de ce podcast. Quand on dit classique, c'est évidemment avec des guillemets.
Mais c'est terrible comme les propres pratiquants d'un genre musical ne trouvent pas le terme adéquat pour parler de leur pratique.
Ouais, mais je pense que c'est aussi, tu vois, c'est très 21e siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pourrais pas oser dire homme, femme ou autre. Enfin, tu vois, tu te sens obligé de prendre des précautions comme ça aujourd'hui au XXIe siècle sur à peu près tout, parce que on peut te faire un vrai sermon parce que t'as osé dire classique, alors que oui, mais non, mais en fait, je voulais pas dire exactement classique. Tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on doit prendre des pincettes avec tout un tas de sujets. Et voilà, moi, je trouve ça limite un peu fatigant.
Ouais, elle a différence. Ouais. Pardon, vas-y. Non, Armène, je t'en prie. Vas-y.
Non, mais enfin, pas au contraire, mais je pense que c'est plus justement, ça montre qu'on se pose des questions et qu'on remet un peu en cause justement tous les trucs préétablis. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Faut juste accepter la période de questionnement. Donc voilà, je pense que je trouve que c'est une bonne chose de se dire, bon, classique, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'accepter le fait que pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux. Enfin, en tout cas, ouais. Moi, personnellement, j'ai rien trouvé de mieux, mais de continuer à se poser la question et peut-être que du coup, comme ça, un jour, on trouvera un mot plus précis, quoi. Voilà.
Mais est-ce que ça s'auto-régulerait pas un peu cette histoire, parce que genre moi je me dis qui va décider bon maintenant les bons termes c'est ça et qui va le faire appliquer quoi tu vois.
Mais ça c'est la société dans laquelle on vit, il y a plein de mots, enfin le sens des mots évolue avec l'utilisation que les gens en font. Donc, on n'est plus, c'est pas une académie qui va dire, tel mot, maintenant on a décidé que c'était ça. Peut-être que, à force que les musiciens, si les musiciens l'utilisent, du coup, le public va se mettre à l'utiliser, puis que ça va rentrer dans les mœurs et que ça changera. Ou pas.
Ouais, voilà. Ouais, je pense. Si un musicien un peu hype, qui se sent chaud de régler le problème.
Bah, carrément. Ouais. Un appel, un musicien hype.
J'ai peut-être des questions là-dessus pour plus tard, mais on parlait tout à l'heure de l'opposition entre musique savante et musique populaire. C'est quand même un truc qui revient régulièrement. Moi, c'est quand j'étais au conservatoire, ça fait quand même déjà une dizaine d'années, mais c'était un peu ce qu'on nous disait. Et toi, tout à l'heure, tu parlais plutôt de musique écrite ou musique improvisée. Le problème de musique écrite ou improvisée, c'est quand même que la plupart de la musique est... écrite, enfin la plupart de ce que je veux dire c'est que mais si que ce soit le rock, le rap, tous les genres populaires machin, c'est assez bien écrit, j'ai l'impression. Donc comment est-ce qu'on distinguerait la musique classique de ça?
Moi je la distingue sur l'interprétation, dans le sens où sur tous les styles que t'as cité, les artistes, eux, leur travail, leur créativité, elle s'exprime dans leur composition. En partie, ouais. Il y a leur style, leur manière de chanter, leur manière de le faire, mais quand même en grande partie, c'est la composition, ce qu'ils ont écrit. Alors qu'en musique classique, en fait, la partition, elle existe déjà, et ta manière de t'exprimer en tant que musicien classique, c'est qu'est-ce que tu vas faire justement de cette partition, quelle interprétation tu vas en faire. Tu vois, on n'est pas tous des machines avec un fichier MIDI où on va tous ressortir le même truc. C'est ça qui fait l'intérêt justement, et c'est pour ça qu'on peut écouter 20 fois, 30 fois la même œuvre, mais jouée par des artistes différents. Je pense que c'est ça qui fait cette particularité-là, et de découvrir à chaque fois des nouvelles choses dans des œuvres. Les notes n'ont pas changé, les indications n'ont pas changé, c'est exactement la même chose, mais le musicien va réussir à te faire entendre des trucs, à te faire ressentir des émotions qu'un autre n'avait pas fait avant. Donc pour moi, ce serait plus cette différenciation-là. Donc t'as raison, en fait, le terme musique écrite et orale n'était pas bon non plus.
En fait, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que autant là, c'est très intéressant ce que tu pointes du doigt, à savoir que l'interprétation est fondamentale dans la musique classique. On reviendra dans une deuxième partie justement sur ces codes un peu spécifiques, sur ces manières d'appréhender la musique propre à la musique classique. Et effectivement, la différence entre compositeur et interprète est particulièrement intéressante dans la musique classique.
Ouais, je précise, ouais. Parce que c'est très récent en fait, ce truc-là, jusqu'à il y a. En termes de date, je vais pas être précis, on va dire 150 ans, 150 ans, les deux étaient beaucoup plus proches. C'est-à-dire qu'il y avait plein de musiciens qui étaient compositeurs aussi. C'est assez récent d'avoir vraiment ces deux mondes de la ouais, distinction, ouais, ces deux mondes de la composition et de l'interprétation. Mais maintenant, enfin régulièrement, ça revient. Mais on a quelques grands interprètes qui sont aussi compositeurs, improvisateurs aussi. Voilà. Encore une fois, on a voulu mettre des gens dans des cases. On a différencié les deux parce qu'il faut se spécialiser. Donc dans les milieux élitistes, tu peux pas faire plusieurs choses bien. Il faut faire une chose. Il faut la faire à fond. Et donc du coup, être interprète et compositeur. Pendant assez longtemps, c'était pas bien vu. Si tu passais du temps à composer, c'est que du coup, tu passais pas suffisamment de temps à travailler ton instrument et tout ça. Voilà, c'est juste pour préciser ça.
On en reparlera de tout ça, mais ouais, Val, toi, un peu ta vision par rapport à l'histoire de la musique savante notamment. Et juste, parce que comme ça te permettra peut-être de rebondir là-dessus, je dois avouer que derrière le terme musique savante, dans tous les genres musicaux, tu as des oppositions, des distinctions, l'identification, etc. C'est absolument naturel, des petites guéguerres, même entre genres musicaux, etc. Mais c'est vrai que la distinction musique savante, musique écrite, elle a un côté un peu violent, je trouve, sincèrement.
Ah, c'est hyper violent qu'on appelle ça musique savante ou musique sérieuse. Moi, je trouve ça violent quand je lis ça. C'est pour ça que, autant classique, je trouve que c'est un mot qu'on peut utiliser, mais j'utilise jamais savant ou sérieux. Mmh. Je pense que une part de la réponse, elle est dans ce que tu disais avec le côté écrit. Le fait de tout écrire, les notes, parfois les tempi, les intentions et tout ça, de tout écrire, ça donne un côté très savant. Parce que quand on est rocker ou quand on est, alors même si dans le rap tu vas écrire tout ton texte en entier, mais ton beat tu vas peut-être mettre un truc un peu approximatif, et en rock ou en métal tu vas écrire les accords vite fait dans une grille, mais tu vas pas vraiment préciser le nombre de mesures parce que ça va un peu de soi et tout ça. Donc je pense que dans la musique classique, le fait qu'on écrive tous les trucs tellement précisément. Et paradoxalement, plus on avance dans le temps, la musique contemporaine, c'est hyper, hyper, hyper précis. Tu regardes une partition de musique contemporaine aujourd'hui, il y a un nombre d'indications qui n'existaient même pas à l'époque de Bach. Et Bach, d'ailleurs, ne mettait pas tant d'indications que ça. Donc, c'est sûr que c'est violent, je trouve, comme terme, de dire savant, sérieux. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu utilises le mot profane pour parler des gens qui n'y connaissent rien ou des autres.
Oui, mais qui est un terme qui pourrait avoir un sens religieux, en l'occurrence. Enfin, la musique classique, c'est intéressant entre la musique
bien
profane
sûr,
et la musique
liturgique. C'est un terme qui est utilisé dans la musique classique, puisque jusqu'à une certaine époque, on distingue la musique religieuse, donc la musique d'église, de la musique profane, qui est tout ce qui n'est pas justement composé pour l'église. Donc, preuve encore que la musique classique est populaire, puisque tout le répertoire qui n'est pas religieux, enfin voilà. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, comme on le disait tout à l'heure, en fait, d'avoir ces réflexions aujourd'hui au XXIe siècle, de se poser ces questions. Mais c'est sûr que le terme savant, musique savante, ça a un côté supérieur, c'est des gens plus intelligents qui ont fait plus d'études et qui sauraient composer mieux la musique. Alors que,
mais tu veux que je te dise un truc, il y a un truc problématique aussi avec le savant, en fait, c'est que je comprends cette particularité du rapport à l'écrit, aux indications, etc. Et je veux bien entendre qu'il y a un truc qui identifie cette musique, qui la démarque un peu. Mais le problème, c'est de relier cette culture de l'écrit au savoir, à ce qui est savant. Parce que c'est une vision d'ailleurs extrêmement occidentale, que de considérer que le savoir, il doit être écrit, il doit être inscrit dans les livres, etc. Et ça, c'est emmerdant. Ouais.
Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, la base, où est l'origine de la musique classique et de la musique en général. Mais à l'époque baroque, donc on parle du 17e, 18e siècle, on a une musique qui est encore énormément improvisée. Donc, on n'écrit pas. On a ce qu'on appelle les arias da capo et toutes ces parties où le musicien va pouvoir improviser dans une partition. On lui dit, OK, tu joues la partition une fois et puis tu vas la rejouer où toi, tu peux improviser. Donc, en fait, c'est nous qui nous sommes muselés au fil de l'histoire, je pense, parce qu'au départ, on improvisait énormément, on n'avait pas ce besoin absolu de mettre par écrit. On mettait par écrit pour ne pas oublier, parce qu'il faut imaginer que quand tu écris un opéra qui dure 4 heures pour 80 musiciens, tu ne peux pas tout retenir. Donc tu mets par écrit aussi pour une facilité de distribution. Donc je pense qu'on n'a pas voulu tout mettre par écrit, histoire de dire, voilà, ça c'est officiel, c'est le savoir et tout. C'était un outil de le mettre par écrit. Voilà, donc. Mais à la base, il y avait tellement de musique improvisée, de par. Effectivement, les interprètes étaient aussi compositeurs et oui, improvisaient énormément.
Puis je trouve ça bizarre d'avoir un adjectif qualificatif positif après le style de ta musique. Tu vois, c'est comme si moi j'appelais ça la musique stylée. Tu vois, genre j'invente un genre de musique, j'appelais ça la musique trop stylée. Genre, je trouve ça bizarre. Je trouve ça un peu pompeux.
Et tu fais référence à quelle définition du coup, musique quoi, musique pour classique ou
savant,
musique savante, ouais. Mais ça encore une fois il y a très peu de, enfin je pense qu'il y a très peu de compositeurs eux-mêmes qui aujourd'hui diraient j'écris de la musique savante, ça se fait plus quoi, mais voilà, maintenant dans l'inconscient et le conscient collectif, c'est ça quoi, on a vraiment on a accolé les deux quoi, musique classique, musique savante, musique élitiste, tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut faire des trucs, enfin il faut se battre activement contre ça et renverser justement cette image là qui est Je vais pas dire pas du tout, parce que oui, il y a certaines musiques pour lesquelles oui, tu vas encore plus en profiter si tu as des connaissances ou quoi, mais tu peux tout à fait profiter d'un concert ou d'enregistrement ou quoi, en n'y connaissant absolument rien en musique classique, et juste être suffisamment ouvert d'esprit pour pas dire dès le début c'est de la musique classique donc je vais pas aimer. Mais il y a pas besoin d'avoir des connaissances. Après, en fait, il y a plusieurs niveaux d'écoute et d'appréciation. C'est-à-dire que tu peux écouter un morceau et dire bah je trouve ça super beau. Mais ça, c'est valable dans tous les types de musique.
Et même tous les arts, je pense.
Oui, et tous les arts aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs couches. Et tu peux aussi écouter une œuvre en connaissant vraiment par cœur tout le parcours tonal, tout ce qui se passe, et comprendre pourquoi à cette époque c'était fou d'avoir fait ça et tout ça, et d'en profiter encore plus. Mais c'est pas du tout indispensable, quoi.
C'est comme la cuisine.
C'est comme la cuisine. C'est le meilleur exemple que j'aurais pu trouver.
Il faut savoir que Michel adore les comparaisons avec culinaires. Et voilà, les pâtes, par exemple.
Oui, j'avais remarqué.
Oui, pour moi, il y a ce truc où genre ouais, si c'est un palais, ça s'affine, quoi.
Ouais. Mais voilà, mais tu peux apprécier quelque chose avec un palais.
On parlera ça éduqué. Justement de est-ce que c'est une musique d'initié entre guillemets, est-ce que l'initiation, et ça c'est un truc important pour par rapport au code, etc. Mais pour terminer peut-être sur cette première partie autour du vocabulaire, etc. Ok, musique savante, on comprend bien que même pour vous c'est problématique, etc. Que musique écrite, pourquoi. Mais c'est surtout le rapport qu'entretient cette musique aux musiques dites populaires. Est-ce que l'opposition fait sens? Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà entendu cette opposition? Est-ce que vous, ça vous emmerde? Est-ce que vous pensez qu'en fait, ça n'existe pas dans le milieu classique, on n'oppose pas? Est-ce que comment dans les faits, c'est vécu, cette idée? Parce que franchement, moi, j'avoue que je considère la musique classique un peu à part. Il y a une espèce d'îlot comme ça, un peu différent de la grande masse de la musique populaire, entre guillemets, que je connais, que j'apprécie, que j'écoute au quotidien. Et puis, il y a ce truc un peu différent. Et je peux avoir tendance à, si ce n'est les opposer, à dire, ah, c'est pas exactement la même chose quand même. Est-ce que...
Bah, en gros, c'est surtout que genre, tu dis que t'écoutes de tout, mais à aucun moment tu vas lancer Spotify et mettre du Prokofiev.
Non, mais les gens qui disent j'écoute de tout, c'est pas possible. Faut arrêter de dire ça. Parce que de tout, comme tu dis, enfin, c'est vraiment la réponse un peu bateau.
Est-ce qu'on peut dire j'écoute beaucoup de choses, alors?
Ça, c'est bien, je trouve. C'est bien, parce qu'en fait, comme tu disais, avec tes petites îles, tu mets les musiques actuelles, et puis la musique classique, elle est un peu en haut, mais j'ai envie de te dire, le jazz, tu le mets où?
Je le mets
la musique du monde, tu la mets où?
Alors, musique du monde, déjà, ça, pour moi, ça, c'est un terme que j'ai jamais compris, parce que ça ne veut strictement rien dire.
On met tout ce qui n'est pas nous,
en fait, c'est musique.
Oui, voilà.
C'est une catégorie à part, je te jure.
Mais elle est problématique.
Dans les playlists, encore plus. À lancer un jour un podcast sur les musiques du monde, du coup.
Absolument.
Mais tu vois, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si la musique classique, elle doit être opposée aux musiques actuelles. Parce qu'à nouveau, je pense que ça découle de ça, tu vois. Plutôt que d'aller chercher les oppositions, je trouve qu'il faudrait aller chercher les points communs ou les ponts qu'on va lancer entre les deux. Parce que le nombre de groupes de rock ou voilà, tous les groupes de métal qui ont une formation classique et tout ça, les groupes de rock qui font intervenir des instruments qu'on utilise plutôt dans le classique, voilà, les musiciens qui ont une formation à nouveau classique. Je pense qu'il y a plein de ponts qui peuvent être lancés. Et qu'il faut voir plutôt comment ces musiques s'apportent des choses. J'ai une série de vidéos où je parle de toutes ces chansons qui reprennent du classique. Il y a eu Stromae il y a quelques années, il y a Céline Dion, il y a Johnny Hallyday, il y a Gainsbourg de ouf.
L'enfer du métal symphonique.
Énormément. Donc, mais voilà, mais ça c'est carrément un genre qui s'appelle symphonique, comme la musique avec un orchestre symphonique. Donc, je pense que plutôt que de vraiment chercher une opposition, parce que l'opposition de la musique, ce serait le silence. Et encore, le silence est une musique. Hein, à nouveau, au XXe siècle, ils ont exploré cette question. Je pense que c'est plutôt pas vraiment les opposer, mais plutôt se dire qu'est-ce qui influence l'un et qu'est-ce qui renvoie à l'autre, quoi.
Qu'est-ce que tu penses, toi, Armand, alors, je sais pas, soit d'opposition, mais ou en tout cas de différencier les choses. C'est même pas tant de les opposer, c'est de dire que c'est quand même pas la même nature, c'est pas la même chose, tu vois.
Moi, je vais plutôt partir du constat, en fait, que oui, en fait, je comprends complètement que que toi, je peux même pas faire de généralité, mais que toi, tu considères ça comme quelque chose à part. Parce que, en fait, il y a une manière de l'écouter et de l'apprécier, déjà, qui est tellement différente. On va juste parler des concerts, par exemple. quelqu'un qui est jamais allé à un concert classique de sa vie, s'il a fait beaucoup d'autres concerts, il va se dire mais c'est quoi ce truc quoi. Genre pendant les morceaux, il y a pas un bruit. S'il y a quelqu'un qui a le malheur d'éternuer, tout le monde regarde. Et, ça, t'applaudis que à la fin. Tu chantes
c'est
pas.
Très ritualisé,
ouais, c'est hyper ritualisé. Et mais de la même manière que à un concert de n'importe quel type de musique, c'est aussi ritualisé dans le sens où bah je sais pas si un refrain connu, tout le monde va se mettre à chanter par exemple. Mmh. Et bah là en musique classique, c'est différent. La manière d'écouter est tellement plus donc sans porter aucun jugement, mais c'est une écoute qui est beaucoup plus intérieure, par exemple. Quand tu vas à un concert, il y a ce truc de on est tous là ensemble à vivre quelque chose, mais il y a un truc vers t'es tourné quand même vers toi-même quand t'écoutes, et plus un côté introspection et moins communauté. Par exemple. Et du coup.
Mais est-ce que moi, c'est marrant parce que, genre, justement, pour moi, ça fait sens parce que la distinction que je ferais entre les deux, esthétiquement, c'est l'absence du drum kit, en fait. Genre, tous les autres styles musicaux populaires, etc., actuels, en tout cas, depuis qu'on a des drum kits, il y a un drum kit, il y a un beat, tu vois.
Et il y a un côté, une question rythmique genre, pour toi, c'est ça tu...
Pour moi, c'est sans forcément parler, parce que la rythmique, c'est un peu abstrait, mais le côté vraiment appuyé, vraiment sur la pulsation, avec ce rythme régulier qui est quand même fort appuyé.
Ah mais je peux te dire qu'on l'a en classique de ouf aussi. Hein. Pour être musicienne amateur, pas du tout du niveau d'Armin, le métronome et le travail au métronome, c'est notre beat à nous, tu vois. Mais quand on te fait travailler, et les musiciens d'orchestre sont obligés d'avoir un chef pour avoir cette référence rythmique. Donc, il y a ça aussi. Mais le tout de la musique classique...
Moi, ce que je parlais, c'était vraiment du drum kit. Donc, vraiment, c'est kick, snare, hat, et tu fais...
Donc, tu es obligé d'avoir une batterie.
Quoi. Mais en gros, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre la musique dite classique et la musique populaire. C'est l'essentiel.
Ouais, mais
tu vois,
plein de groupes, c'est vraiment ce truc. Ça, de... Tu vois, non ? Ou t'as d'office un beat, c'est ce que tu veux dire ?
Pour moi, c'est ça. Genre, la plupart de l'autre musique, on va dire, a ce beat. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans le rock, que ce soit dans le funk, que ce soit même dans le jazz. Tu vois, genre, t'as vraiment ce truc de. Je sais pas comment dire. T'es aidé dans la pulsation.
Ouais, mais genre ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas ça qui fait la différence d'écoute et la manière de vivre la musique. Parce que t'as des, enfin, sauf si t'entends ça dans le sens où c'est quelque chose qui te donne envie de bouger, par exemple, d'être debout à un concert ou quoi. Mais tu peux avoir des morceaux avec de la batterie et où, pardon, t'appelles ça comment?
Un drum kit.
J'ai l'impression d'avoir 60 ans. Bref. tu peux avoir des morceaux avec un drum kit, mais un truc assez lent. Et tout. Non, là, mon point, c'était vraiment plus en fait, avoir la curiosité de découvrir une autre manière d'écouter de la musique. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, mais là où la musique classique commence à remonter un petit peu, c'est notamment grâce aux plateformes de streaming. Et la musique classique, c'est une musique pour se relaxer, pour réviser, et il y a un côté très utilitariste et très catalogué, genre voilà, la musique classique, ça détend et tout. Alors, ce qui est une gigantesque connerie, parce que il y a des morceaux relaxants, mais t'as certains morceaux, enfin, c'est tout sauf relaxant. Il y a des trucs et du coup on essaye en fait de calquer ce truc de sortir de cette cérémonie où tu écoutes la musique, c'est un moment en soi, c'est pas pendant que tu rentres du boulot en voiture, quand t'es dans le métro ou quoi, juste prendre un moment où tu fais que écouter de la musique, tu peux avoir l'esprit qui divague un peu. Je sais pas, par exemple, quand je suis à un concert, ça m'arrive très souvent de me rendre compte que je me mets à penser à d'autres choses et tout, et c'est un moment vraiment, unique et différent de ce qu'on a l'habitude de vivre à un concert ou en écoutant une autre musique ou quoi. Et du coup, cette différence-là, elle existe. Je vais pas dire, mais si, c'est facile. Enfin, c'est exactement la même chose d'aller à un concert de musique classique ou d'écouter de la musique classique chez toi. C'est deux choses différentes. Mais juste, voilà, moi, je vous conseille vraiment, à la fin, On vous donnera quelques peut-être des idées de morceaux à écouter. Et juste, voilà, se dire, là, les 10 prochaines, 15, 30, 60 prochaines minutes, en fonction du temps que vous avez, je vais juste me poser, écouter de la musique, je vais voir ce que ça me fait ressentir. Et si ça vous fait chier, ça vous fera chier. Je dis pas forcément que ça plaira à tout le monde, mais c'est juste avoir la curiosité de le faire.
Restez jusqu'au bout de l'émission. Il y aura les recommandations de Val, d'Armen. Moi, j'attends que ça pour découvrir un peu. Voilà. Est-ce que pour résumer, entre guillemets, cette première partie autour du vocabulaire de la musique classique, on comprend bien qu'il y a plein de mots qu'il faut questionner, qui peuvent poser problème éventuellement, d'autres qui correspondent un peu plus à la réalité des choses. Est-ce que tout simplement s'arrêter à musique orchestrale, musique symphonique, tu disais, c'est un truc qui vous paraît un peu plus adapté, et en même temps, il peut y avoir un duo comme tu l'as, Armen. Non, en fait, ça va pas, mon truc. C'est...
Attends, mais t'as rien écouté ou quoi, là? Faut qu'on recommence tout comme ça.
Non, mais moi, j'essaie de trouver le bon thème. En fait, il n'y en a pas, c'est tout, quoi. C'est...
Comme dans tous les types de musique, il y a un jargon. Voilà. Enfin, tous les types de musique, tous les arts, partout. Voilà. Mm-hmm. Qu'il faut accepter. On peut trouver, nous, on peut faire l'effort de trouver des synonymes, mais faut pas nous en vouloir d'utiliser un jargon entre nous. Ça, c'est clair. Et après, en termes de terminologie, je pense que c'est pas trop là-dessus qu'il faut se concentrer, dans le sens où, c'est tellement large. Enfin voilà, comme je disais, ce qu'on appelle musique classique, ça peut, je sais pas, on peut remonter jusqu'à la musique médiévale et on pourrait dire que c'est de la musique classique, tu vois. Donc
je considère que ça l'est.
Oui, non, moi aussi. Ouais. Mais du coup voilà, dans le sens peut-être pas trop se concentrer sur la terminologie et plus en fait juste plonger dedans et après on s'en fout de la période ou quoi, plus que l'émotion prime en fait sur tout le reste, quoi. Juste en écouter et après voilà.
Mais là où je comprends ce que tu dis, que est-ce qu'orchestral c'est classique, je pense que tu peux dire que toute la musique orchestrale est peut-être classique, mais toute la musique classique n'est pas nécessairement orchestrale. Mm-hmm. Parce qu'en fait les gens qui s'y connaissent pas spécialement ou quoi, vont entendre un orchestre symphonique et se dire « Ah, c'est de la musique classique !» Et donc, c'est peut-être ça qui fait que toi, quand t'entends ça, mais je peux dire que si t'entends un lead de Schubert, une meuf avec du piano, tu vas dire « Ah, c'est de la musique classique !» parce qu'elle va avoir ce chant, cette voix opéra. Mais c'est peut-être ça qu'on peut rapprocher l'orchestre symphonique de la musique classique, c'est parce que souvent, c'est lié. Même si aujourd'hui, t'as la musique de film, la musique de jeux vidéo, tout ça, et que l'orchestre symphonique n'est pas nécessairement classique, mais... Voilà, il y a un rapprochement qu'on peut faire.
Et bon. Vice-versa.
Ouais. Et vice-versa.
Ouais.
Bon. Les mots, c'est la merde, on peut le dire. Écoutez, Armen dit, allez, écoutez, on oublie les mots. Mais il fallait quand même qu'on en parle. Et il faut pas non plus complètement éluder la question, parce que c'est du sens aussi, les mots.
Non, mais bien sûr, mais il y a plein de super essais, bouquins scientifiques sur le sujet. On peut aussi vous faire des recommandations. Mais voilà, il y a tellement de musicologues qui se prennent la tête là-dessus que voilà.
C'est comme j'écoutais l'excellent podcast d'ailleurs dans le tempo.
Ah, métal. Tu connais, c'est bien. Il paraît que c'est le meilleur podcast du monde.
C'est en cours de validation, mais c'est quasi sûr. Et pareil, enfin, il y a un nombre de termes pour désigner tous les types de métal et tout. Enfin, on s'en sort plus, quoi.
Voilà. Mais c'est pas exactement le même rapport, je trouve, aux dénominations dans le classique. On avait pris l'exemple parce que c'est le plus choquant entre guillemets de musique savante, etc. C'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Il y a cet aspect de distinction qui est présent dans absolument tous les genres musicaux, mais il y a des spécificités. On va pas revenir dessus parce qu'on l'a abordé, en fait, là, on vient de le faire. Il y a quand même des spécificités, il faut pas le nier non plus, quoi.
Je ne le nie pas.
Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la seconde partie. Alors là, c'est un peu le gros morceau, entre guillemets, puisqu'on va essayer de s'intéresser au code et au public de la musique classique. Et en fait, parce que c'était une forme d'introduction presque, j'ai envie de dire, de parler des mots.
C'est comme l'entrée au restaurant, pour faire des métaphores comme Michel. C'est quand on t'a mis une énorme entrée au restaurant. Mais et
c'est exactement ça. Et parce qu'en fait, tout ça aussi va découler. C'est-à-dire que les mots parlent aussi des codes du public, etc. Ils cherchent à matérialiser ça en un terme extrêmement réducteur, mais c'est lié quand même souvent. Et premier truc, par exemple, Val, toi, sur ta chaîne YouTube, donc Valso Classique, t'as une série de vidéos qui s'appelle les bases de la musique classique et qui démontre bien justement que il est nécessaire quand même, pour essayer de s'attaquer entre guillemets à cette musique, de l'écouter, de la comprendre, de maîtriser des codes. Et j'ai envie de dire, enfin, par exemple, tu vois, on en parlait, il y a le distinguo, par exemple, entre compositeur-interprète, qui est assez omniprésent. Lorsque tu disais, à un moment dans une vidéo, j'ai trouvé ça intéressant, tu parlais, si tu veux juste faire une petite recherche internet, chercher un morceau en streaming, par exemple, et bah, souvent dans le titre, alors, l'auteur, le compositeur, il peut être écrit de plein de manières différentes. Parfois, ils mettent des chiffres, des lettres dedans, qui expriment la tonalité, le mode, etc. Enfin, c'est d'une complexité, j'ai l'impression, comme ça, quand même particulière. Alors, est-ce que justement, et c'est le but de ces vidéos que tu as fait, c'est ça demande une initiation quand même peut-être plus importante, la musique classique, que d'autres genres musicaux.
Je pense que comme plein de musiques, comme plein d'arts, la musique classique, c'est comme une langue étrangère. Tu veux apprendre le mandarin, si tu vas en Chine, tu vas pas comme ça commencer à parler avec les gens. Il te faut des bases de vocabulaire. Au début, tu vas pouvoir avoir une petite conversation simple, bonjour, au revoir, merci, où sont les toilettes. Et petit à petit, tu vas pouvoir avoir des grosses discussions, refaire le monde et tout. La musique classique, c'est pareil. Si tu connais aucune base, et si t'es juste curieux d'écouter la musicalité de la langue, c'est-à-dire comment ça sonne, bah, tu peux kiffer. Après, si tu veux te sentir concerné et tout, bah, c'est vrai que si t'apprends des petits mots de vocabulaire, que tu dis, ah ouais, là, j'entends ça. Ah oui, ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est une modulation. Ah ouais, je l'entends bien. Bah, là, tu vas pouvoir commencer à te sentir actif, en fait, dans l'écoute. Et donc, c'est vrai que dans cette série, Les bases de la musique classique, mon but, c'est de dire aux gens, voilà des clés de vocabulaire, de compréhension, pour que vous puissiez vous sentir plus concerné en tant qu'auditeur. Mais oui, c'est sûr que c'est hyper compliqué de faire une recherche en musique classique, mais tout comme je suis sûre que moi, je mets à chercher un morceau... Enfin, si tu tapes juste, je sais pas, t'as envie d'écouter Let It Be, les Beatles, tu tapes Let It Be, les Beatles, tu vas pas spécialement tomber sur la version que tu veux, tu vas tomber sur plein de versions.
Non, je suis pas d'accord.
Pas toujours. Moi, je trouve que ça devient quand même de plus en plus compliqué de tomber sur...
Non, c'est valable. Tu sais, quand il y avait des problèmes de catalogue sur certaines plateformes, etc., où en fait, t'avais essentiellement des reprises parce qu'ils n'avaient pas les droits de l'original, des
oui,
choses comme
vrai.
Ça.
Oui, c'est vrai. Mais si toi, tu parles sur les plateformes de streaming, oui. Moi, je parle aussi sur YouTube et Internet, tu vois.
Bonjour, Cobus, par exemple.
Non, c'est...
Moi, je l'avoue, sans problème, la terminologie, elle est compliquée. Je trouve alors, ça paraît très compliqué maintenant de tout changer. Mais je pense pas qu'on puisse dire le contraire, quoi. Parce que tous les systèmes de classification des œuvres, tout ça.
Non, c'est vrai, mais c'est aussi. Voilà. Je pense qu'il faut il faut imaginer que voilà la musique actuelle populaire, ça fait quoi 70, 80 ans qu'elle se développe. Si on considère, je sais pas, les débuts du rock'n'roll dans les années 50. La musique classique, c'est plus de 1500 ans d'histoire, donc il y a une masse accumulée. Et puis surtout, il y a un truc que tu relevais tout à l'heure, c'est que la musique classique, c'est une partition qui va être interprétée par plein d'interprètes. Donc aujourd'hui, tu vois, je te dis, Let It Be des Beatles, bah, il y a la version des Beatles, voilà. Et au pire, au mieux, t'as une ou deux versions valables qui traînent, voilà. Mais Prélude et Fugue de Bach numéro 1, t'en as, mais des millions. Parce que tout le monde l'a joué. Et donc, c'est ça aussi qui est hyper compliqué dans la terminologie. C'est le nombre d'interprètes qui vont reprendre une œuvre. Et donc là, je reconnais, effectivement, c'est un gros bazar.
Bah ouais, et moi, j'ai pas de solution. Hein. J'ai très peu de solutions. Bah, je me pose beaucoup de questions. Mais là, pareil, je sais pas comment on pourrait faire. Mais en effet, c'est compliqué. Rien que le fait que dans beaucoup de morceaux, il y ait la tonalité qui soit indiqué, donc je sais pas, do majeur, je dis n'importe quoi, pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. Pour tous les gens qui n'ont pas fait un petit peu de solfège ou quoi, ils savent pas, et c'est normal qu'ils savent pas. Mais
il y a une blague qui me fait beaucoup rire, c'est quand il y a quelqu'un qui pète et que quelqu'un dit ça, c'est un la mineur.
T'as des amis bizarres.
Mais qui êtes-vous, monsieur? faut s'en aller, monsieur. Hein. Ouais, mais tu vois, tu fais cette... Ouais, non, si tout le monde a déjà entendu une tonalité, mais... Ouais, je sais pas. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait un autre moyen de remplacer ces tonalités-là par autre chose? Je sais pas. Pardon, j'essaye d'enchaîner sur un truc plus sérieux.
Mais... Ah oui, mais pardon.
J'aurais peut-être pas dû... Ah non, t'excuses pas.
Non, mais c'est... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde connaît la mineur, do majeur, enfin, tu vois, tout le monde connaît ces termes-là. Par contre, genre, c'est pas possible d'entendre un accord dans un P. Tu vois ce que je veux dire? Donc, genre, il y a ce truc...
Ah oui, tu continues sur la blague.
Tout le monde a la terminologie, mais tout le monde sait pas ce que ça veut dire, tu vois.
Oui, bien sûr, ouais.
Moi, je voudrais juste quand même revenir sur le fait que tu peux avoir différentes harmoniques dans un même son. Hein. Donc,
c'est vrai. Oui, mais
je veux pas qu'on parle de. Mais tu pourrais avoir un accord. Enfin, tu pourrais avoir deux sons dans un paix, hein, clairement.
Oui.
Tu pourrais avoir des paix
polyphoniques.
Ce serait intéressant. Michel, je pense que dans ta musique stylée, c'est ton nouveau genre que tu vas créer. Ouais. Tu devrais introduire de la musique pour paix.
Mais on travaille dessus d'arrache-pied. Hein. Là, déjà, on a un peu d'avance là-dessus.
Moi, j'aimerais bien avoir ta vision aussi, Michel, parce que c'est intéressant, et peut-être plus d'un point de vue composition, par exemple, parce que toi, tu fais de la musique qu'on pourrait qualifier d'actuelle, etc., beaucoup de rap, etc., enfin, même si tu fais plein de choses extrêmement différentes.
Je fais de tout.
Tu fais de tout, absolument.
Mais, pour les gens qui écoutent de tout.
Mais tu as aussi cette fascination, notamment pour la musique de film, la musique orchestrale, la musique symphonique, et beaucoup, en fait, tu as fait le conservatoire, tu as beaucoup des codes aussi du classique, mine de rien, dans la composition.
J'ai fait un an au conservatoire, donc il faut se calmer aussi. Mais
Oui, mais en tout cas, c'est un truc qui t'intéresse.
Ouais,
et je pense que tu as ce regard un peu des deux côtés. Est-ce que, d'un point de vue purement compositeur, tu vois, même d'un home studiste à la maison, est-ce que c'est plus facile de sortir un morceau de rap ou d'intégrer des trucs symphoniques? Est-ce qu'en fait, cette complexité, cette demande d'initiation, elle se retrouve même juste dans la simple pratique de composition, tu vois?
Ben, en fait, si tu veux sortir un morceau orchestral comme un morceau de rap, tu peux le faire très vite. Après, il sera dégueulasse, tu vois. Genre, dans les deux cas, je veux dire, tout doit s'apprendre et se maîtriser. Et je dirais que c'est des choses qui sont très différentes. Mais il y a le côté impressionnant de la musique orchestrale où ben, t'écris pour plein de sections, tu vois. Genre, vraiment, tu dois distribuer tes accords, machin, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de paramètres à prendre en compte, mais en vrai, pour produire un morceau de musique actuelle de A à Z et qu'il sonne professionnel, tu vas avoir autant de steps, donc je dirais pas que c'est... je ferais pas de hiérarchie entre les deux, tu vois, mais c'est sûr que c'est des esthétiques qui sont très différentes, et je dirais que... Moi, le truc qui me bloque un peu actuellement, c'est cette idée de bah, devoir louer un orchestre, quoi. Parce que genre, c'est bien de faire des mock-ups en MIDI, etc. Et on a des trucs qui sont de plus en plus réalistes. Mais si tu veux le vrai truc, bah, tu dois demander les services d'un orchestre et ça peut coûter très cher, tu vois, si tu veux faire jouer des morceaux que tu écris pour orchestre. Donc... voilà. Ou alors tu peux faire ça. Enfin, il y a toujours moyen de se démerder. Tu peux voir un orchestre un peu amateur, pas loin de chez toi, des plus petites sections, des machins, etc. Il y a toujours moyen de se démerder. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, c'est un des trucs qui me freine. Alors que dans tous les autres styles, bah, je peux faire ce que je veux. Je veux faire du rock, du machin, voilà. Mais
Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu soulignes le fait qu'on peut faire plein de choses avec la technologie aujourd'hui. Mais un orchestre, des samples d'orchestre, c'est quand même vraiment pas du tout la même chose que si tu voulais juste faire du rap et avoir un beat et avoir des trucs. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, ce rapport au live, en fait, dont on a déjà parlé et dont on parlera un peu plus tard, où en fait, la musique classique, il y a un côté, et c'est peut-être là aussi où on peut peut-être la distinguer des musiques actuelles. Est-ce que c'est une musique qui est difficilement qui surfe difficilement sur le terrain d'aujourd'hui parce que on aimerait bien faire un petit truc chez soi et puis bah non, tu dois louer tout un orchestre, donc c'est compliqué.
Bah oui, je pense. Il y a quand même beaucoup de compositeurs que ce soit amateurs ou professionnels mais qui composent la musique orchestrale, tu vois. Moi je suis beaucoup ils sont assez bien mis en avant par notamment des développeurs de plugins qui développent des banques de sons orchestrales, etc., tu vois. Donc
tu vois un Zimmer partout dès qu'il y a une banque de sons, tu le vois, c'est horrible.
Ouais, tu trouves? Moi je trouve pas. Moi je trouve typiquement chez Spitfire, ils ont vraiment tendance à mettre en avant des profils que tu connais pas trop et tout. Je trouve ça très intéressant. Spitfire Audio, c'est mes chouchous. Mais ouais, c'est clair que c'est pas le truc le plus intuitif, j'ai l'impression, tu vois. C'est que bah déjà, ne serait-ce que cette propension qu'on a tous au mimétisme. Donc, t'entends le style à la mode, c'est le rap. Tout le monde a envie de faire du rap et il se pose pas la question de pourquoi il a envie de faire du rap. Tu vois, il voit juste des gens le faire, il se dit ça a l'air cool et il se dit c'est possible, je vais le faire aussi. Mais avec la musique orchestrale, c'est un truc que je pense qu'il faut, avant de te dire je vais en faire, il y a. Je pense que pour se dire je vais en faire, déjà, il faut un gros ego. Parce que genre c'est compliqué à appréhender, et c'est dire c'est possible que moi j'y arrive, c'est déjà quelque chose de compliqué, je pense.
Bon, c'est donc bien quand même qu'il y a un savoir nécessaire, peut-être plus important pour une pratique de la musique classique ou en tout cas orchestrale.
Mais si je te dis demain, va avoir une conversation en mandarin, tu vas attendre d'avoir quand même des sacrées bases avant de dire.
Bien entendu, mais en l'occurrence, il y a des musiques qui sont beaucoup plus, si ce n'est instinctives, qui sont beaucoup plus faciles d'accès, qui te récompensent plus rapidement en tout cas. Tu vois, où tu as des résultats.
Oui, qui te donne l'impression d'avoir un truc concret plus vite.
Exactement.
C'est cette question d'exposition au truc qui te permet d'avoir les codes aussi, parce que des rappeurs très bons, t'en entends beaucoup, des rappeurs claqués, t'en entends partout aussi. Mm-hmm. Donc, t'as aussi ce truc où tu vois la variété dans le truc, que ce soit en termes d'esthétique ou même de qualité, tu vois, et où tu te dis, si eux le font, moi aussi je peux le faire. Alors que la musique orchestrale, c'est un truc qui a l'air très installé et très. Tu te dis pas que dedans il y a des amateurs qui font des compositions de merde et qui les uploadent et que personne les écoute, tu vois. Genre, tu te dis, la musique orchestrale, c'est un truc où les gens, ils savent tous exactement ce qu'ils font, tu vois. Et je pense que c'est cette image-là en particulier qui bloque...
C'est intéressant ce que tu dis, et j'aimerais bien avoir l'avis d'Armen, parce que Armen, justement, toi, tu es moins dans la musique symphonique, etc. On a parlé de ton duo Solea, par exemple. Est-ce qu'il y a ce même poids, entre guillemets, lorsqu'on cherche à composer, par exemple? Alors, vous faisiez surtout l'interprétation, mais tu as quand même touché aussi un peu à la composition, pas plus que ça. Est-ce que justement, parce que tu te dis, c'est quelque chose la composition. Ma question c'est, est-ce que c'est parce que c'est compliqué quand on a énormément d'instruments, le symphonique, etc. Il faut un savoir-faire absolument incroyable. Ou est-ce que c'est aussi tout simplement le poids de la tradition, de l'histoire, du classique, et même lorsqu'on a un simple duo, ouais.
Si je peux juste compléter ce que tu dis là, moi quand je suis allé au conservatoire, j'y suis allé dans la section composition à l'image, donc c'était orienté musique de film, et c'était acquis pour tout le monde que dans l'école, cette section-là, c'était l'élite, tu vois. Genre, y a les instrumentistes, c'est bien, mais les compositeurs, c'est autre chose, tu vois. Et ça se ressentait à tous les niveaux, tu vois, que ce soit le regard des profs, le regard des autres élèves, les machins, etc. Les compositeurs, c'est un autre game. C'est pas comme les instrumentistes.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Armen, de tout ça, ouais?
Bah, pour moi, en fait, c'est deux métiers différents qui sont pas incompatibles, la composition et l'interprétation, mais c'est juste moi, c'est un truc dans lequel je me suis jamais senti, en fait. Genre, je sais pas, je faisais beaucoup de guitare électrique quand j'étais ado. J'ai jamais écrit une seule chanson. Donc c'est pas le style classique qui a fait que j'ai pas composé ou quoi. C'est juste que voilà, moi j'adore l'interprétation et j'ai jamais eu envie de faire de la composition. Mais en fait, il y a plein de règles de composition. Mais tu peux très bien écrire de la musique classique en connaissant aucune de ces règles, justement parce que c'est un style qui est quand même très très ouvert, mine de rien. Tu peux très bien écrire, tu peux faire du néoclassique, tu peux écrire dans le style romantique, tu peux écrire des mélodies toutes simples avec juste un petit accompagnement à la basse et tout ça, et écrire quelque chose dans l'esthétique classique. Ça pourra être apparenté à de la musique classique. Et puis tu peux aussi faire 10 ans d'études de la composition, de toutes les règles de composition, d'enchaînement, d'accords, de tonalité, tout ça, et composer. Il y a plusieurs niveaux possibles. Mais bon, là on touche sur un sujet où moi j'ai vraiment très peu de connaissances, parce que moi j'ai jamais touché à l'écriture, et c'est pas du tout un sujet que je maîtrise. Donc je m'arrête là.
Si on devait, là on a parlé un peu du côté des musiciens, avec quelques exemples, Michael, Armen, Val. Si on s'attaquait maintenant, enfin si on s'intéressait plutôt au public qui écoute la musique classique. Parce que je vous rappelle un peu le thème de cette émission, mythe, réalité. Val, tu disais, un truc qui m'énerve, c'est on dit que c'est un truc de riche, etc., alors que ça ne l'est pas forcément. Alors, j'ai quand même regardé un peu quelques études sociologiques qui essaient de se faire autour du public. Et parfois, il y en a certaines commanditées d'ailleurs par les pouvoirs publics. En l'occurrence, il y en a une en France, je crois qu'elle date de 2008, un truc comme ça. Elle est un peu ancienne, malheureusement. Et bref, j'ai essayé de regarder rapidement, de me faire un avis. Alors, tous ne disent pas exactement la même chose. Ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a pas loin de la moitié du public qui aurait plus de 60 ans. En France, en tout cas. Certains considèrent qu'il y a peut-être un vieillissement par rapport aux années 80, etc. D'autres ne sont pas d'accord. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Mais globalement, ce qui ressort quand même, c'est que, alors que, par exemple, on inscrit plein de gosses dans des conservatoires, etc., qui est une forme d'initiation à la musique classique qui est faite quand même auprès de beaucoup d'enfants, je pense. En tout cas, ceux qui ont la chance d'être inscrits dans des écoles où on pratique un peu des instruments. y a un creux énorme, adolescence, et toute une partie de jeune adulte, etc. Et puis ça revient quand même à partir de 50, 60 ans. Est-ce que, et ça c'est des études qu'on peut toujours questionner, mais qui font ressortir quand même un peu une forme de profil sociologique comme ça. C'est un peu plus mesuré pour les questions des catégories socioprofessionnelles, par exemple, on pourra en discuter. Mais est-ce que il y a un problème? Est-ce que c'est une musique de vieux? Est-ce que le public est vieux?
Et moche.
C'est un peu provoque hein, de dire c'est une musique de vieux.
Non, mais bien sûr, mais c'est ce que tout le monde dit. Donc déjà, oui, excuse-moi, quand tu vas le dimanche après-midi, t'as que des têtes blanches. Mais comme au théâtre aussi, je fais le parallèle. Alors moi, l'histoire que je me raconte, c'est ces gens-là sont à la retraite, ils ont plus de temps, donc ils vont peut-être plus au théâtre et à l'opéra déjà. Mmh. Et donc oui, il y a beaucoup de... Oui, plus de la moitié du public a plus de 60-65 ans. Ça, je pense que c'est vrai. J'ai pas besoin de faire une étude, je pense que c'est vrai. Mais plus de la moitié, ça fait quand même que du coup, moins de la moitié, donc quand même une grosse partie, ont moins. Et moi, je vois beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes même. Et je trouve que on peut pas dire qu'il y a un vieillissement du public, parce que s'il y avait vraiment un vieillissement du public, les salles seraient vides, parce que les gens seraient morts. En fait, ce qui est beau, je trouve, c'est que même si le temps avance, il y a toujours des plus de 60 ans qui viennent à l'opéra ou au concert. Donc en fait, finalement, si tu veux, les générations, c'est comme si à 60 ans, c'était un peu du vin, tu vois, tu commences à aimer ça. Donc moi, je trouve justement que ça donne beaucoup d'espoir, parce que ça te dit que beaucoup de gens qui ne s'y étaient jamais intéressés avant s'y mettent à un certain âge. Donc ça, c'est déjà hyper positif.
Ça, c'est une réalité. Effectivement, beaucoup d'études indiquent que l'appétence, entre guillemets, pour la musique classique se construit sur le temps, effectivement.
Ouais, parce que je pense déjà, c'est un moment où t'as le temps. À la retraite, effectivement, tu cherches des nouveaux hobbies, mais pas que, parce que voilà, moi qui a la trentaine, enfin qui approche de la trentaine, je ne dirais pas, j'ai plein de potes qui commencent à me dire, ouais, Val, moi j'aimerais bien m'intéresser à des nouvelles activités, découvrir des nouveaux trucs, est-ce que tu peux m'initier? Et donc il y a plein de gens autour de 30 ans qui cherchent à s'intéresser à la musique classique, et ça, je trouve ça cool aussi, parce que ça prouve que c'est pas que des vieux.
Les jeunes. Tu es en train de dire qu'on est déjà vieux à 30 ans, c'est possible ça aussi.
Non, je suis en train de dire qu'il y a aussi des gens à 30 ans qui commencent à s'y intéresser.
Ouais, il y a des gens qui prennent des cours de vin aussi. Enfin voilà, c'est des trucs de vieux, quoi. C'est...
Bah, pas spécialement œnologie. Mais
c'est le genre de truc que je peux faire. Donc...
Moi, j'ai envie de le faire. Bon, on fera ça ensemble. mais une dernière chose que moi, j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est un club de fans d'opéra, de jeunes fans d'opéra qui s'appelle Juvenilia, qui regroupe des fans d'opéra européens partout en Europe, et on se réunit, avant Covid on se réunissait une fois par mois dans un opéra différent en Europe, et on est parfois plus d'une centaine. Alors à l'échelle européenne c'est pas énorme, mais pour te dire qu'il y a des clubs de fans d'opéra, et donc moi ça me redonne vachement espoir en me disant, ah mais en fait c'est cool, parce que c'est ce que j'ai remarqué en lançant ma chaîne, c'est que plein de gens m'écrivaient en me disant ah, c'est cool ce que tu fais, parce qu'en fait, moi, j'aime bien la musique classique, mais j'ose pas trop l'assumer. Et du coup, ce que tu fais, c'est cool, parce qu'en fait, du coup, je me sens moins seule. Et Juvenilia, c'est un peu la même chose. C'est entre fans d'opéra européens, on se retrouve pour aller triper et faire que des soirées à l'opéra. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des vieux, ça, c'est le cliché, c'est l'a priori, c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi plein de jeunes, sauf que eux, ils sont souvent dans les places pas chères, tout en haut. Donc, c'est peut-être eux qu'on voit moins. Puis surtout, au JT, on va pas interroger les jeunes, tu vois. Au JT, on veut montrer les vieux qui ont été à l'opéra, tu vois, ou qui ont été au concert. C'est comme quand on interview un Belge aux informations en France. On va prendre celui qui a le pire accent. Donc aussi, on entretient ces clichés parce que on veut montrer, ouais, vous vous souvenez, la musique classique, ce truc de vieux. Mais il y a plein de jeunes à l'opéra. C'est juste qu'on les voit moins. Tu vas sur les réseaux sociaux, maintenant, tu te rends compte qu'il y a plein de jeunes. D'ailleurs, tous les comptes, je pense, d'influenceurs, c'est des gens qui ont en moyenne moins de 60 ans.
Qu'est-ce que tu en penses, Armen? Tu penses qu'il y a une réalité quand même, qu'il y a un public relativement âgé autour du classique?
Oui, bah, de toute façon, là, il n'y a pas matière à débat. Mais je reviendrai plutôt sur l'aspect différence entre le nombre d'enfants qui sont inscrits dans les conservatoires et en gros, qu'est-ce qu'ils font entre 6 ans? Pourquoi ils attendent d'avoir 60 ans pour potentiellement retourner au concert? Et il y a encore, ça progresse, mais des gros soucis dans l'enseignement, en fait. Dans le sens où, déjà, bon, pour plein de parents, inscrire leurs enfants à la musique classique, c'était genre un passage obligé. Il fallait faire ça. Quelles que soient les classes sociales de la population. soit pour accéder justement à une classe supérieure ou pour asseoir sa position. Mais la musique classique, c'était voilà, ça allait lui apprendre. On met l'enfant au conservatoire très tôt parce que ça va lui apprendre la rigueur, ça va lui apprendre la patience, le goût du travail et toutes ces inepties. Et du coup, on se retrouve avec plein d'enfants.
Belle valeur, Armand.
Ce sont des belles valeurs, mais le problème c'est la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des enfants qui n'en ont absolument rien à faire. Alors un, de la musique classique, en deux, des fois de la musique en général, où en fait c'est juste les parents qui eux n'ont pas pu faire de musique, donc ils inscrivent leurs enfants au cours de musique. Ça, bref. Et après ils se retrouvent à être obligés de faire que de la musique classique, alors que peut-être, voilà, la musique classique c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde, mais comme n'importe quel autre style de musique. Et aujourd'hui, ça change. On a par exemple dans la plupart des conservatoires, au moins régionaux, il y a des, alors ce qu'on appelle des pôles de musique actuelle. Non, c'est pas des gens très jeunes qui ont inventé ce terme-là, mais au moins, bon, on voit à peu près de quoi on veut parler. Mais en gros, ça te permet déjà de pas avoir ce traumatisme de tous ces enfants qu'on fait un an de solfège sans pouvoir toucher à leur instrument. Quoique à la ville de Paris, il y a encore ça. À la ville de Paris, il y a tellement de demandes que pour faire la sélection, pour voir si les enfants sont vraiment motivés, ils font un an de solfège sans toucher à l'instrument, et en gros s'ils tiennent l'année de solfège, ils ont le droit de commencer l'instrument l'année d'après.
C'est l'horreur.
Bon.
Ouais. Mais donc du coup voilà, tu te retrouves avec plein d'enfants traumatisés qui se sont retrouvés avec des profs qui n'étaient pas du tout préparés non plus pour ça, et qui étaient incapables d'enseigner autre chose que de la musique classique. Donc du coup, même si l'élève et si l'enfant était demandeur de faire de la musique mais un style un peu différent, bah était incapable enfin était pas préparé pour le faire. Et donc du coup, ces enfants là ils ont arrêté la musique, et pour eux la musique classique, bah c'est ça, c'est cette image là quoi, c'est un truc élitiste. Ils ont été forcés d'en faire, ils ont été forcés d'aller jusqu'au bout de l'année, de passer leur examen et tout ça.
Ouais, puis même sans le côté forcé par les parents, etc., je pense que le côté institutionnalisé, enfin tu sais que genre dans l'inconscient collectif, c'est ce truc de ça représente la sociétaire, si j'ose dire. Et ouais. Tu sais, quand t'es adolescent, à un moment où tu te rebelles contre la sociétaire, et est-ce que la musique classique, ça serait pas un peu une représentation symbolique de la sociétaire?
Bah, il y a ça, et puis comme tu disais Val, il y a le rapport à l'âge et au temps aussi. Je parlais tout à l'heure d'introspection, de prendre le temps, d'avoir vraiment un moment où tu fais que ça, où t'es tout seul. C'est pas étonnant que ce soit quelque chose qui vienne avec l'âge. Donc il y a des gens qui l'apprécient jeune. C'est pas du tout incompatible, mais en termes de pourcentage, il y a plus de gens qui vont aimer passer ce genre de moment avec l'âge qui passe, quoi.
Bien sûr. Et moi, si je peux donner mon exemple personnel, j'ai la chance d'avoir un papa qui m'a emmenée à l'opéra pour la première fois quand j'avais 2 ans. Et la question, c'est toujours, ouais, donc tu kiffes ça depuis que t'as 2 ans? J'en sais rien. Je pense que non. À 2 ans, je kiffais pas du tout ça. J'allais parce que j'étais contente d'être avec mon papa. Parce que j'étais contente de passer un moment, de lui faire plaisir à lui. Mais clairement, ce côté introspectif, moi, il vient avec l'âge. Moi, limite, j'adore aller au concert, à l'opéra, parce que je sais que ça va être un moment où je vais pouvoir me poser pendant 1, 2, 3, 4 heures, et où je vais complètement pouvoir être avec moi-même, avoir cette musique qui va me parler. C'est un truc, tu peux pas faire ça à 2, 3, 6 ans. Et donc, c'est sûr que... Mais n'importe, je pense, t'emmènes à un gamin voir une pièce de théâtre de je sais pas, un Racine pendant 4 heures. Je pense, voilà, c'est clairement des codes... Et des façons de percevoir la culture, parce que finalement c'est ça, c'est culturel. Et pour rebondir aussi sur le solfège, pareil, quand j'étais gamine, moi j'étais dégoûtée du solfège, hein. J'ai pas du tout kiffé, j'ai eu des très mauvais profs, j'en veux à la fois à mes profs, à mes parents, à moi-même de pas l'avoir dit. Je crois que j'ai créé ma chaîne YouTube par grosse frustration de pas pouvoir avoir un bon bagage et d'être musicienne, puisque grâce à ma chaîne, je vis par procuration votre vie des musiciens. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, ouais, comme tu disais, des parents qui pensent qu'il faut mettre leur enfant au solfège, parce que quoi? Parce que quand ton gamin va écouter Mozart, il va être plus intelligent, faut arrêter avec ça. Mais il y a tellement de parents qui pensent que c'est bien de mettre son gamin au solfège. Non, si ton gamin, il veut jouer au foot ou il tape dans tous les sens, mets-le à la batterie ou mets-le au foot, mais le mets pas à faire de la clarinette, à faire ça sur son bureau pendant 3 heures, quoi, tu vois.
Mmh. Mais ça, le côté utilitariste de la musique, tous les ans, on nous ressort les études, alors ça fait faire plus de lait aux vaches, ça rend la viande plus tendre, ça aide la concentration, ça, enfin, si tu fais écouter de la musique classique à ton bébé, il va, et il y a sûrement une part de vrai là-dedans, il y a aucun doute, mais on reste dans les clichés, quoi.
Bien sûr, il faut que tu le fasses avancer. Parce que tu kiffes. Je veux dire, toi, en tant que parent, tu mets ton gamin à faire de la musique parce que toi, t'en as fait, parce que tu kiffes et t'as envie de lui transmettre cette passion. Il faut pas se dire, je vais mettre mon gamin à faire ça parce que comme ça, il sera, je sais pas, plus intelligent, plus détendu. Au contraire.
Il y a un problème qui est pas propre à la musique classique, de l'enseignement de la musique de manière générale en France.
De l'enseignement,
de l'enseignement peut-être d'ailleurs, effectivement. On en fera, je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus à l'occasion, Michel.
Je suis très chaud.
Sur l'enseignement de la musique, quoi.
Ouais.
Que ce soit.
Je ferai des gros wads à tous
les
profs.
Écoles et tout. Ouais. Non, mais parce qu'on l'a tous vécu. Moi, pareil, j'ai fait une ENM d'une école nationale de musique. Et ce qui est rigolo, c'est que j'étais inscrit en même temps que mes sœurs. Et moi, j'étais inscrit en guitare, j'étais dans l'annexe pourrie où, en fait, c'était les musiques amplifiées. Alors que mes sœurs s'étaient inscrites en violon, flûte traversière, et elles étaient dans le beau bâtiment. Résultat, moi, encore aujourd'hui, je joue de la musique, et elles ont arrêté au bout de 3-4 ans, parce qu'en fait, c'était l'école, là où elles étaient. C'est-à-dire qu'on leur faisait passer des classes, des machins, et ils les ont dégoûtées. Alors que moi, c'était la même école, mais déjà, tu voyais vraiment, géographiquement, enfin, et dans la qualité du lieu, nous c'était les reclus, mais résultat, la passion elle s'est transmise, quoi.
Voilà.
Et c'est problématique.
Comme quoi, la passion se transmet toujours mieux dans la crasse, j'ai remarqué.
ça c'est possible.
ça je sais pas, mais c'est juste, c'est une question de personnalité aussi et de rapport humain. Moi, par exemple, j'ai commencé la guitare et le solfège à 6 ans et je suis toujours tombé sur des profs et en guitare et en solfège qui ont fait que j'ai toujours aimé faire ça et j'ai toujours continué, mais j'ai conscience que c'est une chance et que c'est pas comme ça partout. Donc voilà, il faudrait que ça puisse devenir une norme et pas une exception, quoi.
Et puis il y a un truc quand même, il faut qu'on l'aborde, parce que on parle depuis tout à l'heure de la nature de la musique classique, qui fait que on peut l'apprécier seulement avec le temps, le fait que parfois l'enseignement est problématique et donc ça pousse pas aussi les gosses à continuer tout de suite après, mais il faut aussi qu'on parle quand même de la question socio-économique qu'on a rapidement évoquée. Est-ce que c'est un cliché ou pas? Est-ce que c'est une musique de riche ou pas? Ça serait intéressant d'en parler. Pareil sur les études un peu dont je parlais tout à l'heure. Ce qui ressort, c'est qu'à peu près, il y a 50% à peu près de cadres dans le public, de ceux qui écoutent, hein, de ceux qui écoutent de la musique classique. Ce qui reste quand même la place à 50% pour les autres. Mais on voit quand c'est les ouvriers, c'est moins de 10%, les étudiants, c'est moins de 10%. Bon, ça mériterait d'être affiné, il y a différentes études, etc. Mais il ressort quand même qu'il y a une majorité de gens qui ont des moyens. Après, c'est pas exclusif, c'est pas que un truc de riche, ça c'est pas vrai. Pour autant, c'est la majorité des gens. Un peu comme avec les vieux, en fait. Oui, c'est une majorité de vieux, oui, c'est une majorité de riches. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que t'as une théorie sur ça déjà, Val? Parce que t'avais déjà une théorie pour expliquer l'âge que j'ai trouvé très convaincante, personnellement.
Est-ce que j'ai une théorie pour l'argent? sans doute, mais attends, le temps que je l'élabore, parce que j'ai plein de trucs qui me sont venus quand t'as parlé, donc je vais laisser, je vous laisser la parole pendant que je réfléchis, parce que vous allez peut-être me donner des idées, mais j'ai...
Ça t'évoque des trucs, toi, Armène, tout ça, est-ce que...
Ouais, bah, non, mais c'est le serpent qui mord la queue, c'est-à-dire qu'on entend toujours que c'est une musique élitiste, donc forcément, du coup, il y a plein de gens aussi, enfin ça c'est pas un cliché, il y a plein de gens aussi qui vont au concert pour se faire voir, pour bien s'habiller, pour montrer que eux ils apprécient la musique classique contrairement aux autres, tu vois, ça existe, c'est pas une généralité, mais il faut l'accepter, et à force d'entendre ça en permanence, oui, bah faut pas s'étonner que les gens de classe moyenne ou de classe populaire n'aient pas envie d'en écouter, quoi, parce que c'est de la musique de riche, parce que c'est de la musique élitiste, et qu'ils entendent ça à longueur de journée, que il faut avoir tous les codes pour pouvoir l'apprécier. Et voilà, mais bon, ça change petit à petit. En tout cas, il y a beaucoup de démarches qui sont faites.
Est-ce qu'on peut parler de ça?
Selon vous, qu'est-ce qui est mis en place?
Qu'est-ce qui est mis en place? Alors peut-être
juste Val, si tu voulais répondre.
Je vais juste réagir par rapport à ce que tu dis, parce que c'est hyper intéressant. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique classique pour se la péter. Comme tu dis, alors, il y a quelque chose de très historique. On allait au théâtre pour se faire voir. C'est d'ailleurs la preuve des théâtres à l'italienne, comme ça, où on se voit mieux les uns les autres qu'on ne voit réellement la scène. Donc, c'était clairement un endroit où on venait pour se montrer. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de réceptions mondaines et tout ça. Il y a des gens qui détestent ça. Mais alors, moi, j'ai remarqué aussi que le nombre de gens, enfin, tu sais, même dans des films, où on va mettre de la musique pour se donner un style, pour se faire genre, on est intellectuel. Donc, il y a aussi ce côté. Moi, le nombre de gens que je vois qui écoutent de la musique classique et qui viennent me sortir des énormes théories en me disant « oui, moi, je pense que... » Et j'ai envie de dire « mais tu connais rien, tu fais semblant que t'écoutes, mais tu n'es pas réellement passionné. » Parce que c'est des gens qui veulent se donner un genre. Et ça, je pense que c'est pour plein d'autres styles. Je pense qu'effectivement, peut-être dans les 50%, je ne veux pas juger à nouveau, de cadres qui écoutent la musique classique, est-ce que réellement c'est des gens qui sont vraiment passionnés ou qui se sont dit je vais me mettre à écouter de la musique classique parce que ça va faire genre, parce que par rapport à mon entourage, à mon milieu social, je dois pouvoir me la péter et dire oui oui moi aussi je vais à l'opéra parce qu'en team building on a fait ça machin. Après là où c'est aussi très intéressant, c'est pas vraiment une théorie mais c'est pour rappeler un peu la tradition parce que j'aime bien ça. Historiquement, les riches, les bourgeois, les aristocrates ont toujours financé la musique classique parce que les musiciens, il fallait les entretenir. C'est-à-dire, voilà, déjà à l'époque baroque, mais je prends l'époque Beethoven parce que c'est lui que j'ai beaucoup étudié récemment. Il vivait chez des mécènes et Haydn, qui a été son professeur encore plus, il vivait chez le prince Esterhazy. Enfin, voilà, il y avait quelque chose où être musicien, on n'était pas payé directement pour composer. Donc en fait, il fallait que tu aies un mécène qui t'entretienne, qui te fasse habiter chez lui, qui te donne de l'argent, qui te paye pour
Il fallait ou c'était une façon pour la bourgeoisie aussi de s'approprier la culture et de rayonner encore plus?
Aussi, mais en fait, s'il fallait pas, tu vis comment? En fait, c'est un peu ce qui est arrivé à Mozart, c'est que Mozart, il voulait pas justement être sous l'emprise d'un mécène, donc il s'est disputé avec plusieurs mécènes, et c'est ce qui fait que voilà, il a pas eu tout l'argent qu'il aurait pu avoir. Et en fait, donc il y a toujours eu cette histoire de mécénat depuis le début de l'histoire de la musique. Et donc, il y a toujours eu les riches qui étaient proches des musiciens. Et ça s'est passé dans la danse aussi. Hein. On entretenait les danseuses, on s'en occupait. Et donc, les riches, il y a cette histoire où, encore aujourd'hui, tu regardes à l'Opéra de Paris, à la Monnaie à Bruxelles, ça, il y a des grands mécènes de ces institutions. Donc, des gens qui investissent énormément d'argent. Et donc, ça, c'est aussi un truc... parce que les riches, et dans l'art de façon générale, hein, je ne connais pas les détails des autres arts, mais les riches ont toujours, je déteste dire les riches, tu vois, c'est comme ça. J'aimerais bien dire nous, mais je ne suis pas riche.
On peut parler de la bourgeoisie.
Contrairement à Michel. Non, mais voilà. Et donc, en fait, il y a ce côté où il y a cette... C'est pas une tradition, mais c'est un peu ça, quoi. Ils ont toujours été liés à la musique classique. Et donc, je pense que dans l'inconscient collectif, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que, ben oui... au cours de l'histoire, ça a souvent été les riches qui ont permis la création de certaines œuvres, qui ont permis d'entretenir certains compositeurs. Alors, heureusement, pour plein de compositeurs, au fil de l'histoire, ça s'émancipe. On peut composer pour pas spécialement un mécène, quoi.
Même si je veux être un peu critique et mettre un peu nuance dans tout ça, c'est-à-dire que la bourgeoisie qui entretient un milieu artistique, c'est vrai que ça a toujours existé, et ça a permis à les artistes et à des mouvements, etc., de se développer. Ça a été positif pour des arts, j'en suis persuadé. Tu vois-tu par contre qu'elles sélectionnaient, c'est-à-dire c'était pas pour l'amour de l'art uniquement. C'était pas que ça, c'est aussi parce que ça représentait quelque chose, il y avait une forme de fonction aussi.
Oui, et puis avoir ton nom sur X symphonie, sur une sonate.
Et c'était pas pour tous les genres musicaux, pour tous les types d'art, etc. C'était très spécifique, très distingué, tout ça.
Je pense, ouais, mais voilà, c'est pour vraiment prendre conscience. Je pense que le fait qu'aujourd'hui, si la musique classique, on pense que c'est un truc de riche, c'est aussi parce que dans l'histoire, ça a été beaucoup un truc de riche. Voilà.
Armen, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Rien de plus à rien de plus à ajouter. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai pas plus de connaissances à apporter sur ce sujet.
Je vais te provoquer, et ça va nous permettre d'embrayer sur une autre question qui est justement qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui? Parce que je pense que plein de gens font le constat en disant il faudrait que la musique classique elle soit plus connue, tout simplement, parce que ça peut enrichir les musiciens déjà, ça peut enrichir les gens qui vont l'écouter, enfin c'est globalement ça peut être tout bénéf pour tout le monde, et puis c'est une culture historique riche, etc., qui et même actuelle et qui peut être extrêmement passionnante et qu'il faut mettre en valeur. Qu'est-ce qui est fait? Tu disais que ça a tendance à changer, Armen. Qu'est-ce qui est fait? Commençons déjà par ça.
Bah, déjà, au niveau de l'enseignement, les enseignants sont de mieux en mieux formés. Il y a de moins en moins de concertistes, enfin de musiciens uniquement, qui se retrouvent un peu parachutés dans des conservatoires avec aucune idée de ce que c'est que la pédagogie et de comment transmettre leur passion qu'ils ont à eux. Parce que tu peux très bien être un super bon musicien et être un professeur nul. Il y a beaucoup d'actions. Et inversement, oui, bien sûr. Oui, bah oui. Et après, t'as beaucoup de projets d'orchestre à l'école, genre de choses, avec des instruments qui sont prêtés aux élèves, où les cours se passent, du coup, bah, dans les écoles. Donc, il y a plus besoin de se déplacer, d'aller au conservatoire. Il y a le prix des billets qui baisse. Aujourd'hui, ça coûte moins cher d'aller écouter un concert de musique classique que d'aller écouter n'importe quel autre concert. Tu peux aller écouter un concert à la Philharmonie de Paris avec des artistes d'une renommée internationale pour 10 euros. Alors que tu vas écouter, je sais pas, la tournée d'adieu de Johnny, ça va te coûter 120 balles, ou même d'autres concerts, tu vas sans aller jusque là, mais le prix des places a énormément chuté. Tu peux payer ta place 150 euros avec une bouteille de champagne si t'as envie, mais c'est plus du tout une obligation.
Ouais, c'est vrai que moi je suis complètement d'accord avec toi. Souvent les gens me disent ouais c'est super cher. Je dis ben non, pas plus cher que le concert de je sais pas de Damso, de n'importe. Enfin tu vois, tu peux avoir des places. Oui c'est ça, même moins cher parce que à l'opéra je pense voilà tu peux monter jusque 150, 200 balles à New York, je sais plus, peut-être 300. Enfin mais le record du record, moi c'est ici en Belgique à Liège, 3 euros pour une place. Tu te dis mais c'est moins qu'une bière. c'est hallucinant.
Et quelle bière toi?
En France, situe à leur place, tu vois, parce que nous, on ira évidemment boire une bière qui va nous coûter 1,50. Mais...
Voilà.
mais voilà, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'accessibilité des places aujourd'hui, et qui sont pas toujours nécessairement des mauvaises places, parce que c'est ce qu'on se dit aussi, ouais, mais du coup, ma place à 10 euros ou à 3 euros, ça va être dans une mauvaise place, mais pas du tout. Ça peut vraiment être des endroits hyper surprenants, une autre façon de vivre le concert, donc l'accessibilité de la part des salles, eux, ils font un effort de ouf. Dans le prix, dans la programmation aussi, les salles essayent vachement de programmer avec des liens avec la musique de film, avec la musique justement populaire, avec des introductions au concert, avec des stars, enfin voilà, des dialogues. Enfin, franchement, il y a un effort des salles. Tout le monde n'est pas au même niveau. Les réseaux sociaux aussi, c'est un truc qu'il fallait vachement développer. Beaucoup étaient très fermés à ça. Et avec le confinement, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à se dire « Oh mon Dieu, il faudrait qu'on soit sur les réseaux sociaux. » Mais ça aussi, c'est une façon de devenir accessible. Donc, c'est en train de bouger. Après, tout le monde ne bouge pas de la même façon. Mais moi, je pense que c'est positif.
Vous deux, Armen et Val, j'allais embrayer sur. Enfin, c'est une question qui fait un peu lien. C'est vous deux, genre, on vous donne là maintenant un budget illimité. Et qu'est-ce que vous faites pour briser cette barrière-là?
Bah, déjà, c'est pas forcément une question d'argent.
Ouais, c'est pareil, je sais pas quoi en faire.
Intéressant. mais alors, c'est quoi si c'est pas une question d'argent? Qu'est-ce que vous préconisez?
C'est renouvelé. Enfin, c'est quelque chose qui va prendre du temps de toute façon. Mais c'est attendre que toute la génération qui est en train de se former maintenant dans les conservatoires, tous les gens qui vont à ces concerts dont tu parlais, voilà, il y a pas mal de genre les ciné-concerts par exemple, c'est un succès, c'est un succès de fou. Il y a plein de gens qui vont voir, je sais pas, le Seigneur des Anneaux pour parler des plus grands, et ça va être pour pas mal de personnes une porte d'entrée vers la musique classique. Et juste du coup pour un peu hors sujet, mais pour rebondir sur ce qu'on disait avant. Et les plateformes sur les plateformes de streaming, il y a beaucoup maintenant de playlists avec de la musique classique. Et en fait, j'ai pas encore d'avis sur la question. Enfin, c'est-à-dire que j'oscille un peu. Je trouve qu'il y a des aspects positifs et des aspects très négatifs. Mais il y a beaucoup de playlists, genre relaxation, révision,
musique pour
studio,
étudier,
ouais voilà, exactement, musique pour étudier, tout ça. Et donc du coup, en même temps, ça permet à des gens de découvrir de la musique classique sans l'a priori qui peut y avoir, mais ça cantonne à un style hyper consensuel avec que des trucs très doux, que des tubes.
Lang Lang qui joue Chopin, et ça, je suis d'accord avec toi, c'est que Enfin, fini, mais je voudrais rebondir sur ce que tu dis.
Non, non, bah vas-y, tu peux, je continuerai pas si tu veux rebondir là-dessus.
Non, c'est juste de dire qu'en fait, dans ces playlists qui sont toutes faites, du coup, les gens ont leur choisi l'interprète qu'ils vont écouter et ils ont qu'une seule version en tête et qui est pas toujours la version qui est peut-être la plus intéressante.
Mais ça, c'est déjà un truc d'initié, ça. C'est déjà.
Oui, mais
si
parce
on
qu'en
veut
fait,
accrocher les gens, il faut bien passer par là aussi.
Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'après, les gens, ils ne savent absolument pas ce qu'ils écoutent. Tu vois, parfois ils écoutent toute cette playlist.
Ça, c'est un truc d'initié encore.
Et ben non, parce qu'après, s'ils veulent retrouver ce qu'ils ont écouté dans la playlist, tu vois, ils ont écouté une playlist de 3h40, ils ont aimé un morceau à un moment. Alors, heureusement, maintenant, tu peux vite chasamer et tout, mais dans le sens où, du coup, les gens vont peut-être pas avoir la conscience de la richesse qui peut se cacher derrière ça, ils vont juste se contenter de cette playlist. Et derrière ça, ben voilà.
Non, mais tu as raison. C'est une des limites des playlists. Elle est valable pour absolument tout. Hein. On a parlé déjà de Lofi plusieurs fois dans cette émission, on avait reçu Pandre, etc. Alors, s'il y a un genre qui est complètement, pas soumis, mais enfin, qui est complètement lié, complètement avec les playlists, c'est bien le cas. Et on voit aussi que ça empêche l'émergence de figures artistiques, en fait. Parce que tout passe par la playlist.
Ouais, et j'allais embrayer justement sur le fait que la plupart des gros labels, du coup, ils choisissent, ils peuvent imposer en partie le programme d'enregistrement de leurs artistes, avec des pièces qu'ils vont pouvoir placer dans des playlists. Mmh. Et donc voilà, c'est à double tranchant. Je peux pas dire que je suis contre, parce que y a sûrement plein de gens qui découvrent des œuvres de musique classique grâce à ça, et si t'as vraiment la curiosité, tu peux retrouver le nom du morceau. Je pense que si t'es vraiment motivé pour trouver ça, je pense pas que ce soit un frein, mais par contre ça continue encore une fois de garder la musique classique dans l'aspect voilà, ça sert à se concentrer, la musique classique ça détend, la musique classique c'est doux, c'est bien gentil, c'est propre, tout ça.
Et si je peux faire une petite parenthèse, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc qui est passé, que, enfin, ça fait quelques années, mais là, il y a eu un buzz récemment, des gens qui s'offusquaient parce qu'en fait, on passe de la musique classique dans les parkings pour faire fuir les délinquants.
Ah oui, c'est oui, oui.
Et moi, je trouve ça quand même merveilleux, quoi, parce qu'en fait, le but de la musique classique, c'est de faire fuir les jeunes. Les délinquants. Et je me dis, mais où? Dans quel monde on vit?
C'est quoi cette information?
je te
demande à vérifier, c'est très bizarre comme
ça. Non, c'est vrai aussi, j'avais vu passer.
Ah, ouais. Et tu vas dans plein de parkings, il y a de la musique classique, c'est pas pour donner une bonne ambiance.
Bah, dans tous les parkings,
c'est pour rassurer les gens. Oui, bien sûr.
Sans citer de marque, évidemment.
Voilà. Donc, ouais.
Je trouve ça intéressant qu'on ait parlé un peu de... Vous avez parlé des ciné-concerts, des choses comme ça, de canaux, en fait, qui permettent d'ouvrir, mine de rien. Les grands exemples, c'est la publicité, c'est le jeu vidéo, c'est le cinéma. Bon, mine de rien, ça fait un peu pour la cause, ça travaille pour la cause, quand même, de la musique classique, avec ses limites, bien entendu, mais est-ce que c'est pas aussi... pas forcément par la publicité, parce que là, il y a un aspect très commercial, etc., mais par plein de canaux comme ça, qui font partie, en fait, de la vie des gens, et qui permettent petit à petit d'insuffler cette petite graine, enfin de mettre cette petite graine là de la musique classique. Est-ce que ça passerait pas par là aussi?
Ah, mais il faut aller plus loin, quoi. C'est ça le truc. C'est,
ok, plus loin. Vas-y. Qu'est-ce que
Par exemple, en gros, tu prends la musique classique dans la publicité, tu vas avoir, je sais pas, 3-4 œuvres qui reviennent tout le temps. Tu vas avoir un mouvement lent d'un concerto de Mozart.
Ouais, tu vas avoir du Verdi, un air Libiamo ou un truc comme ça.
T'as vraiment, genre, tu peux compter sur les doigts d'une main, peut-être de deux max. Alors que des airs fédérateurs, on va dire, dans la musique classique, avec le côté justement instantané que la musique classique peut parfois ne pas avoir, c'est une mélodie où tout de suite tu l'écoutes et ça va tout de suite te prendre directement aux tripes. Il y en a plein. Et donc du coup, pourquoi ne pas justement faire l'effort d'aller chercher un peu d'autres trucs. Pour moi, ils font la moitié du chemin, quoi. Ok, ils ont mis de la musique classique, mais encore une fois, c'est utilitariste parce qu'ils savent que en utilisant tel type de musique, après c'est de la pub, hein, faut pas leur demander d'être humaniste. Mais bon.
Non, mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Parce que de temps en temps, je mets un extrait de musique classique et mes potes me font « Ah, c'est la pub pour la pizza !»
Bah ouais,
donc, let's go.
T'es un peu là « Ouais, bon, ouais, super !» Et en fait, tu vois, je me suis souvent dit, parfois t'as des pubs de parfums et des grosses stars, et il est marqué en tout petit en dessous « Jennifer Lawrence pour Chanel ». Je crois qu'elle a pas du tout fait Chanel, c'est pas grave. Mais je me dis, faudrait faire ça aussi pour la musique classique. Faudrait qu'il y ait une obligation de copyright de quand tu utilises un air de musique classique, en tout petit dans la pub, on te mette « C'est du Mozart !» Parce que comme ça, au moins, ça te permet un tout petit peu de conscientiser les gens qui arrêteront de te dire « Ah, c'est la pub de la pizza !» ou de la voiture ou du truc. Parce que ça, c'est sûr que c'est ralent, comme tu dis. Du coup, ça fait la moitié du chemin. On utilise la musique classique parce que c'est de la musique super bien écrite qui reste en tête, que les gens connaissent, et qui est libre de droit. Et ça, c'est tellement énervant. Mmh. Parce que du coup, ils utilisent des trucs, voilà. Mmh.
Même s'il faut quand même payer les droits des interprètes. Mais par contre, pour l'auteur, effectivement.
Oui, mais du coup, on va aller prendre un petit orchestre très, très loin, qui n'est pas très, très cher. Et c'est ça qui est souvent, voilà.
Ouais, ouais, puis du coup, ça joue aussi quand même sur ce cliché de la musique classique qui est classe. Tu vois, genre en général, tu vas mettre ça. Ou alors, il y a, tu sais, des airs très, genre, tu veux un truc pizza, tu vas prendre un truc qui est très vibrant. Mais sinon, genre, typiquement, une pub pour le parfum, en général, tu vas user de l'esthétique classe qu'on attribue à la musique classique.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, après, t'as des putes de parfum avec du Sia aussi, et Sia, c'est pas considéré comme de la musique élitiste. Oh, non, sans porter aucun jugement, justement, mais c'est pas Sia, on peut pas dire que c'est de la musique classique. Donc,
Non, c'est juste vraiment pas de jugement, là. Non, merde,
non, vas-y. Bah non. Mais, c'est le côté, musique, enfin, c'est vieillot, c'est ancré dans une époque ancienne, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même air. La musique classique, ça évolue pas, la musique classique, c'est ça. Alors que, bah, non, justement, c'est pas ça.
C'est vrai. Mais il y a un truc, parce que tu parlais aussi de, donc, non seulement les pubs, mais il y a aussi, comme tu dis, de la musique de film, enfin, les films en général. Et j'ai lancé sur ma chaîne, c'est pas du tout pour faire de l'auto-promo, hein, abonnez-vous, mais j'ai lancé une série de vidéos qui s'appelle Interlude, où en fait j'analyse les scènes dans les films où ils vont à l'opéra. Alors, ça pourrait être au concert aussi, mais j'ai commencé par l'opéra, parce que voilà. Et surtout, les opéras, ça raconte une histoire. Et donc, j'avais fait sur Pretty Woman, j'ai fait aussi une scène dans Star Wars, je vais faire le cinquième élément, Mission Impossible. Enfin, il y a plein de films où ils vont à l'opéra. Et donc, pour moi, c'est pour moi une porte d'entrée de dire aux gens, vous connaissez la musique classique, mais vous le savez pas trop, parce qu'en fait, vous savez pas l'histoire qu'il y a derrière ça. Et hop, tu vois, j'essaie de raconter l'histoire en disant, ouais, mais tu vois, quand ils vont voir cet opéra, il y a une signification par rapport au scénario du film, et par rapport au personnage et tout. Et là, du coup, j'ai envie de dire que c'est presque moi qui vais utiliser, la pop culture pour dire aux gens, regardez la musique classique, en fait, vous en écoutez, vous en consommez, vous savez déjà tellement plus de choses que ce que vous croyez, en fait. Et c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait au début, pour moi, il n'y a pas vraiment de profane ou de néophyte ou de non-initié. Tout le monde sait déjà quelque chose. Moi, si je te chante un début de musique de Mozart, tu sais probablement chanter la fin. Si je te fais un accord, ce qu'on va appeler 1-5-1, tu vas savoir que t'applaudis à la fin. Il y a des trucs qui sont dans notre inconscient. Et donc moi, je veux juste montrer aux gens que les gens connaissent la musique classique. Ils le savent juste pas.
Pour peut-être un peu terminer cette partie du podcast, j'ai l'impression quand même que d'après ce que vous me dites, presque toutes les situations, enfin la situation fait que normalement, c'est-à-dire c'est bon, bientôt tout le monde écoutera de la musique classique. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui on tend vers ça, etc. Il faut juste attendre un peu puis ça va arriver.
Ça peut pas plaire à tout le monde de toute façon.
Évidemment.
Ça, c'est sûr, il y a toujours des gens qui aiment pas.
Mais que ce soit moins considéré comme ce truc un petit îlot dont je parlais tout à l'heure, un peu moins détaché de tout le reste quoi. Et j'ai une hypothèse un peu provocatrice. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas aussi parce que certaines personnes dans ce milieu n'ont pas envie que ça intéresse les autres.
Les Illuminati.
Est-ce que la musique classique est un des éléments culturels de la distinction sociale et qu'un pan de la bourgeoisie ait tout intérêt à préserver cette distinction sociale en prêtant une valeur particulière et en compliquant les affaires pour ceux qui souhaiteraient s'y intéresser. Alors pas de manière diabolique ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je raconte, hein, c'est pas du complotisme ou quoi que ce soit, mais juste dire qu'il y a des forces sociales en vigueur qui compliquent peut-être un peu les affaires.
Moi, je pense pas. Clairement, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste une question d'image et de préjugés. Mais, quand tu regardes, je sais pas, par exemple, l'inscription au conservatoire, il y a plein de villes où le conservatoire coûte quasi rien. C'est pour ça qu'il y a autant d'enfants qui sont inscrits dans les conservatoires. Ça coûte moins cher d'inscrire ton enfant dans un conservatoire que de lui payer des cours de guitare particuliers ou d'autres instruments.
Sauf que les places sont limitées. Mais par contre, oui, tu as raison.
Ouais, les places sont limitées. Ça, je suis d'accord. Il faudrait avoir la possibilité d'augmenter la taille des conservatoires. Mais bon, il y en a forcément qui ont cette démarche-là. Il y a des cons partout. Hein, ça, y en a forcément
c'est même pas une question de cons hein, ou de diabolique, quoi que ce soit. C'est juste dire que les goûts culturels, etc., et comment ça se transmet, comment ça se partage, il y a un truc quand même très lié à comment est organisée, hiérarchisée notre société aussi, je pense. Quoi.
Oui, parce que notre société, elle aime le côté élitiste. Donc, aimer la musique classique, on n'est pas beaucoup. Donc, on a l'impression d'être dans une élite. Donc, je pense que forcément, ta théorie, elle m'intéresse, j'y ai déjà pensé. je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas répandre la musique classique et qui veulent rester dans leur petit monde. Mais c'est pas les décideurs, c'est pas les chefs d'institution, les directeurs d'institution ou les musiciens. C'est peut-être certaines personnes dans le public et ils arriveront toujours à créer leur petit club des amis de l'opéra.
Mais sauf que ce dont je parle, en fait, c'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire, c'est pas des personnes qui consciemment décident. Non, ça, c'est pour moi. Je veux garder ma distance, mon petit truc. C'est une éducation, c'est un apprentissage, c'est des années, voire des siècles d'une forme d'appropriation d'un tout un courant culturel et de se dire. Ça, c'est notre truc. C'est à nous, quoi. Et sans
je pense pas. Ça, clairement, je pense pas. Parce qu'en même temps, je trouve qu'il y a un truc qui est tellement significatif. Des familles de gens qui adorent la musique classique et leur gamin va faire « Ouais, moi, j'écouterai jamais de la musique classique. Je me casse et je fais du rock'n'roll. » C'est justement, moi, je pense, c'est plutôt une culture où plutôt que de transmettre, c'est des gens adorent faire des ruptures, tu vois.
La sociologie t'apprend pas ça. C'est pas tu fais ce qu'on t'a là d'où tu vis. Enfin tu deviens à peu près ce que t'étais à la base quoi.
Moi je trouve dans la musique classique qu'il y a plein de gens qui sont dans un milieu où ça c'était pas du tout ancré et qui s'y intéressent comme ça d'un coup et qui deviennent des super musiciens et qui viennent de familles où c'était pas du tout le cas. Donc la transmission je pense pas. Donc ta théorie est intéressante mais je pense pas.
Non, mais je pense juste c'est tellement à contre-courant de la société dans laquelle on vit que c'est pas étonnant que ce soit mis de côté comme ça en termes d'écoute de largeur de public. Voilà, c'est une autre manière en fait de alors je dirais pas, enfin c'est pas une philosophie de vie ou quoi. Enfin je sais pas, je pense pas être dans la vie de tous les jours à être quelqu'un de différent ou quoi. Vraiment pas du tout. Mais je pense vraiment que ça vient de là quoi. Je sais pas comment je vais terminer ma phrase. Mais
aidez-le.
Non mais ouais, il y a vraiment une démarche à faire quoi. Il faut être acteur. Il faut être acteur à un moment donné. Et tant qu'on entendra à longueur de journée que c'est les musiques élitistes, et bah du coup ça donnera pas aux gens l'envie de faire de la démarche. Et quand je dis la démarche, c'est juste d'appuyer sur play, hein, juste de faire le truc. Je dis pas qu'il faut s'inscrire au conservatoire ou quoi, mais malgré tout, il faut se lancer soi-même.
Voilà. Est-ce que t'as l'impression toi-même, parce que parlons un peu quand même de ton métier. Alors au-delà d'être musicien, donc tu es vidéaste aussi là avec Lucien Car Productions, et tu travailles essentiellement dans le milieu de la musique classique. Tu fais du clip, de la captation live, etc. Et il me semble que tu as cette ambition de moderniser un peu la communication pour les artistes, etc. Ou en tout cas de participer à s'emparer de ces nouvelles façons de communiquer, de s'intéresser vraiment à l'image, de se mettre au niveau, entre guillemets, peut-être de standards qu'on retrouve ailleurs et qui sont pas encore assez courants, peut-être, dans la musique classique. Non, je dis une connerie, c'est moi qui surinterprète ou...
Non, j'aurais pas la prétention de dire que je vais moderniser la manière de communiquer
des musiciens. Non, évidemment, mais...
Il y a plein de trucs. Alors ça, clairement, c'est là, bah, depuis le confinement aussi, ça a vraiment beaucoup changé. Mais depuis ces dernières années, ça avance. Mais ça arrive encore. Attends, je prends juste le problème dans un autre sens. Mais en gros, aujourd'hui, c'est possible pour un musicien classique d'avoir absolument aucune image, d'avoir des photos dégueulasses, d'avoir des vidéos, d'avoir même aucune vidéo, et d'avoir une carrière internationale, tout ça. C'est encore possible. Mais quand même, pour beaucoup de musiciens, et moi je pense, l'image que tu rends est importante. Parce que voilà, on découvre d'abord avec les yeux, le son ne suffit pas. Pour moi, ça revient aussi au même que d'aller écouter un concert. Quand tu vas écouter un concert, tu vois aussi le musicien, tu le vois jouer. Et du coup, moi, ça me paraissait important de faire en sorte que le moyen de diffusion du musicien, donc moi, dans mon cas, la vidéo, soit en accord esthétique avec la démarche musicale. C'est-à-dire que pour moi, ça a pas trop de sens de faire un travail hyper poussé pendant, je sais pas, tu travailles ton instrument pendant 20-25 ans, tu fais ton enregistrement, tu fais ton montage, tout ça, tu trouves un son pas, et puis tu veux sortir une vidéo et puis tu te filmes à l'arrache avec ton iPhone et tu te retrouves avec un truc un peu dégueulasse. Je trouve que ça participe encore une fois à véhiculer une image un peu désuète de la musique et qui est déconnectée du monde réel en fait. On sait aujourd'hui, on vit dans un monde d'images Et c'est hyper important d'avoir d'avoir des visuels qui sont en accord et qui représentent ta vision artistique. Et voilà, du coup, moi, c'est ça qui me... Enfin, ma démarche, c'est ça.
Ouais, si je peux rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est un truc qui m'a pas mal interpellée quand j'ai commencé mes vidéos, c'est que j'ai rencontré plein de jeunes musiciens, parce que oui, faut le dire, il y a plein de jeunes musiciens qui sont hyper talentueux et qui font des super carrières, sauf que nous, les jeunes qui sont hors musique, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a des stars dans la musique classique, mais il y a des influenceurs, il y a des stars et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que t'avais ceux, effectivement, qui étaient influenceurs, qui savaient gérer les réseaux sociaux, qui aimaient ça, qui avaient leur compte avec plein de followers et tout ça. Et puis, t'avais des musiciens ultra talentueux, mais qui étaient juste pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, parfois autistes même, parce qu'il faut pas oublier que il y a beaucoup, moi je pense à un musicien qui est autiste et la seule façon de s'exprimer, c'est jouer du piano, mais du coup, va pas lui demander d'exposer sa vie sur Instagram. Mais il a un talent tel et que quand tu lui dis, ouais, faut vraiment que tu te mettes sur Instagram, mais c'est pas dans son instinct. Et puis, le mec, il travaille tellement, c'est des heures et des heures de préparation, la concentration avant un concert, tu crois vraiment qu'il a le temps de prendre son téléphone et qu'il est dans le mood de faire, hey, je suis à 2 minutes de mon concert. Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a choqué, c'est que maintenant, tu as des agences de communication pour les artistes classiques qui commencent à se développer pour gérer ça à leur place, pour faire leur communication, pour gérer leur page et tout ça, et pour leur faire des photos quali, pour leur faire des vidéos. Et en fait, il y a tellement de musiciens qui savent pas gérer ça et qui, du coup, doivent parfois, pour se faire connaître, débloquer un budget pour faire ça. Et parce que c'est peut-être leur seule façon de se faire connaître, alors qu'ils ont un talent de dingue. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve... C'est un autre débat, mais presque un peu injuste, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, avoir du talent, c'est plus la seule façon d'être connu. Je peux vous citer, mais je ne vais pas le faire, des tonnes de comptes de musiciens, musiciennes qui n'ont pas de talent, mais qui font des millions de vues. Je suis sûre que vous pensez à cette femme qui fait souvent des vidéos au piano avec des jupes très très courtes, des grands décolletés et des talons très très hauts. Elle joue très bien, mais tu te poses un peu la question de l'importance de la musique et de l'image.
Moi, j'ai l'impression que le talent a jamais suffi. Hein. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe, ce truc-là. Après, c'est vraiment un feeling personnel, tu vois, mais c'est...
Oui, le talent où il travaille, en tout cas, ou le mélange. Parce que je suis d'accord avec toi, juste le talent, non, mais...
Moi, bon. J'ai l'impression que ce qui fait que tu deviens connu... Déjà, on peut se poser la question de la fin en soi, d'être connu ou pas, tu vois, mais en plus, si tu veux... Enfin, parce qu'il y a en vivre, et puis après, il y a genre être une star et tout, mais j'ai l'impression que ceux qui perdent, souvent, c'est des catalyseurs d'anecdotes, tu vois. C'est des 50 Cent qui se sont pris 9 balles, c'est des Lady Gaga qui était ghostwriteuse avant, tu vois, c'est...
Storytelling, derrière tout ça.
Ouais, c'est ça. Billie Eilish qui a 16 piges, qui fait ça, soi-disant, dans sa chambre avec son petit frère, alors qu'apparemment, en vrai, c'est plus compliqué que ça, tu vois. Enfin, son grand frère. Et du coup, t'as, pour moi, genre, c'est ce qui fait marcher ça depuis longtemps, c'est quand même ça. Mais peut-être que
non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où peut-être que je sais pas de qui tu parlais là, mais qu'il y ait des stars entre guillemets de la musique classique et qui soient plus suivis pour leur physique, pour leur capacité à communiquer. Bah, c'est peut-être aussi par là que passe la normalisation, parce que l'industrie musicale, ouais, ouais, elle fonctionne aussi beaucoup comme ça.
Ouais. Bon. Je pense qu'on a beaucoup chié sur Lindsay Sterling, par exemple, moi le premier, tu vois, mais sur tu sais, genre une meuf qui était plus douée avec à faire du jeu de jambes que du violon, tu vois, et mais ça a permis à plein de gens de découvrir le violon, de se dire oh putain, mais tu vois, genre tu peux faire de la dubstep avec du violon et tout, tu vois, genre,
ouais, c'est vrai.
Donc c'est toujours bien, en fait. C'est dès que tu commences à ouvrir le truc aux gens, c'est cool.
Après, tu peux critiquer de manière générale l'idée que la communication prend trop de place dans notre société de manière générale, dans la musique, etc. Décorer les cerveaux de la musique classique. Mais que la musique classique soit touchée aussi par ce phénomène, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça signifie qu'elle est pas complètement dans un détaché de tout le reste, quoi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la preuve que la musique classique, c'est pas tant sur ta petite île là en haut. Mais c'est vrai que, parce qu'on parlait de ça, être musicien aujourd'hui, c'est non seulement de voir bosser comme un dingue sur son instrument, préparer des concerts et tout, mais aussi de voir être un peu, gérer sa commu,
ouais,
et tout.
Mais ça, c'est le lot de tous les musicos aujourd'hui, c'est clair.
Bien sûr. Mais voilà, dans le classique aussi, ça existe. Et parfois, parfois c'est compliqué, quoi. Enfin, je me mets à la place des musiciens.
Bon, on avait plein d'autres trucs dont on aimerait parler dans ce podcast, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. Peut-être, pour terminer, vous demander... vos conseils, vos recommandations, que ce soit compositeur, interprète,
En termes de médias, d'endroits pour en trouver, aujourd'hui, franchement, sur toutes les plateformes de streaming, t'as un catalogue monstrueux. T'as pas besoin d'aller sur des trucs un peu plus spécialisés, genre Qobuz, ce genre de trucs, sur Spotify, sur Apple Music. Sur Deezer, t'as tout, carrément. Donc, Val, t'as quelques recommandations à faire?
Moi, j'arrive pas vraiment à donner des vrais noms parce que j'ai toujours eu du mal avec ça.
Ou au moins, peut-être des nouvelles figures que vous trouvez intéressantes,
ouais,
peut-être.
Ça,
à ce moment-là, peut-être, je sais pas, ouais.
Moi, c'est plus des œuvres hein, que je en recommandation, plus que des interprètes en particulier. Ouais. Après, justement, c'est le jeu aussi, et ça fait partie du plaisir d'aller écouter plusieurs interprétations et de choisir toi-même laquelle tu préfères. Donc moi, là, je vais pas spécialement faire de recommandations de noms, mais plutôt des œuvres, on va dire faciles d'accès. C'est-à-dire, c'est vraiment des trucs qui que tu vas pouvoir apprécier tout de suite, enfin ou pas d'ailleurs, encore une fois, tout le monde n'est pas obligé d'aimer la musique classique, mais en sortant un petit peu des trucs qu'on a déjà entendu mille fois.
Et par exemple,
alors du coup, ça va être des noms un peu à la con, hein, parce que
on les mettra en description.
Mais dans les symphonies de Mahler, il y a un adagietto, donc de la 5e symphonie, on le mettra, et qui est magnifique. Alors ça a été utilisé dans un film, c'est La mort à Venise, et c'est juste trop beau, genre vraiment, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté La mère de Debussy. Donc c'est une pièce assez longue, rien que le en trois mouvements. Le premier mouvement est pareil, c'est vraiment magnifique. J'en ai prévu 7 ou 8, je sais pas si je dis tout, si ça fait déjà. Je l'ai dit un peu plus vite, on mettra en description.
Rapidement, puis on les mettra en description. Mais...
Rapidement, un peu de musique baroque, du Rameau, Les Tendres Plaintes. C'est une pièce pour vos clavecins, magnifique. Une pièce de Samuel Barber, alors lui qui est un peu entre les deux, qui est qualifié par certains musiciens classiques que c'est pas de la musique classique, mais qui a écrit un adagio pour Quatuor à cordes.
Mais si c'est pas de la musique classique, ce serait 11. Quoi alors, pardon?
Parce que c'est trop facile d'accès, justement. Ça serait c'est comme les compositeurs genre Arvo Pärt, Max Richter, je sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose un petit peu ou pas. Max Richter notamment, son truc le plus connu, c'est dans quel film? C'est dans Rival. Le film, ça vous dit quelque chose?
Non plus.
Merde, putain. Ah, pourtant, non, c'est vraiment genre, c'est
je
un.
Pas
c'est
rigole.
Un
okay.
Et bref. Du coup, ça, cette pièce-là de Max Richter, je vous la conseille d'écouter. Ça s'appelle Of Nature and Daylight, je crois. Okay. On notera le nom parce que mon accent anglais ne permettrait peut-être pas d'identifier. Et puis, pour terminer, le quintet à deux violoncelles de Schubert. Voilà.
Ok.
Donc vraiment, c'est des trucs qui sont des grands classiques quand même, mais un peu moins connus que voilà. Il y a des chances que des gens découvrent des trucs, et c'est des trucs vraiment genre. Enfin moi, j'ai de la chair de poule dans la moitié de ces morceaux à chaque fois que je les écoute, alors que je les ai déjà écoutés des centaines de fois, mais c'est des trucs vraiment vraiment magnifiques.
Ok.
Ouais, pareil. Moi, j'ai pas vraiment fait de liste, mais j'aurais tendance aussi à conseiller des grands classiques. Au sens grand classique, des trucs hyper connus, mais que en fait je dirais aux gens de les écouter peut-être un peu plus dans l'intégralité. Premier truc que j'ai envie de dire, c'est les 4 saisons de Vivaldi. Tout le monde va dire ouais, mais je connais. Non, mais écoutez les 4 en entier. Essayez de vous dire ok, ça c'est l'été. Ouais, j'entends l'orage, j'entends tout ça. Ok, ah ouais, ça c'est l'automne, les feuilles qui tombent. C'est essayer d'écouter dans l'intégralité. Je vais mettre en description aussi probablement une messe de Mozart, que soit la messe en do mineur ou la grande messe. Enfin, j'en mettrai un truc poignant qui te donne envie de mettre ça à ton enterrement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je mettrai aussi du Beethoven parce que j'ai fait un film sur Beethoven, donc je me suis vraiment imprégnée à fond de sa musique. Je vais essayer de mettre un concerto pour piano, le 4 ou le 5, ça, j'adore. Du Dvorak aussi, c'est un grand classique, mais la 9e symphonie, pareil, faut
incroyable,
s'imaginer les plaines d'Amérique, les chevaux qui galopent, enfin, vous imaginez ce que
Elle
vous voulez,
incroyable.
Mais c'est juste incroyable. Mais vraiment, essayez, et ça c'est conseil que j'aurais envie de dire aux gens, écoutez les œuvres en intégralité, même si parfois ça dure 40 minutes, parce qu'en fait, c'est là qu'on peut le plus se laisser emmener dans un voyage, dans une progression, et visualisez-vous dans la musique, et inventez-vous une histoire ou un truc comme ça. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à aborder des trucs compliqués. Et puis, je mettrai en lien deux, trois autres compositeurs, mais là, comme ça, j'ai pas d'idée. Et des artistes aussi. Et
ouais,
là, je peux.
Et là, des interprètes, des gens peut-être émergents, qui renouvellent un peu, que ce soit en termes de communication, peut-être même en termes sonores, d'esthétique, je ne sais pas.
Ouais, bien sûr. Vas-y, je te laisse commencer.
c'est trop facile, Valentine.
Non, mais parce qu'Armen, en plus, ça doit être dur pour lui aussi, parce que comme il est interprète, il a pas envie de se jeter des fleurs ou de mais son duo, déjà.
Moi, je parlerai pas de ça. Non, mais en guitare, il y a un nom qui ressort énormément, c'est Thibaut Garcia, qui joue.
Tiens.
Super bien. Et vous le connaissez?
Ouais.
Oui. Bon, je connais Florent Garcia qui est un.
Thibaut Garcia. C'est pas la même famille.
C'est l'une des stars quand même aujourd'hui, clairement.
Ouais, carrément. Ouais. Et je vous conseille d'écouter toute sa discographie. C'est magnifique ce qu'il fait. Voilà.
Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire, dans les chanteurs, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui s'appelle Jakub Józef Orliński, qui est polonais, qui est un chanteur, mais aussi danseur de breakdance. Donc, vous devez aller voir aussi son univers visuellement. Mais c'est un contre-ténor, donc il chante encore plus aigu que ténor, donc c'est des registres presque féminins, comme on pourrait dire. Donc lui, Jakub Józef Orliński, il a vraiment un univers génial sur les réseaux sociaux, il est hyper présent. À qui est-ce que je pourrais penser d'autre?
J'en profite juste un petit moment d'autopromo. Un guitariste s'appelle Jérémy Jouve, qui vient de sortir un disque avec de la musique écrite par un compositeur qui s'appelle Mathias Duplessis, donc un compositeur encore bien vivant, et qui écrit dans plein de styles, qui s'inspire de plein de musiques de pays différents, et où j'ai participé dans un quatuor. Donc voilà, un peu de promo. Jérémy Jouve, son dernier album.
Ouais, bah pour le reste, après, moi je mettrai direct en description, parce que comme ça j'ai tellement de noms qui se bousculent, c'est difficile. Si ce n'est de vous dire d'aller voir mes vidéos, parce que je rencontre plein de jeunes musiciens. Non, mais voilà, je rencontre plein de jeunes musiciens, et donc j'aurais envie de faire de la promo de tous, mais pour pas faire de favoritisme. Là, je pense au quintet Touranos, qui est un quintet à vent, donc flûte, hautbois, clarinette, basson et cor. C'est tous des jeunes musiciens qui font des trucs super cool. Il y a l'accordéoniste Félicien Brut aussi, qui fait de l'accordéon en mode musique classique. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant comme répertoire à découvrir, et puis des jeunes violoncistes, il y en a à l'appel, et voilà, je veux pas faire de favoritisme à nouveau, donc je mettrai en description.
En tout cas, allez voir la chaîne Valso Classique. On peut aussi chercher Valentine Jongen si on veut des infos sur toi, si on veut voir ton travail, etc.
Mon parcours de comédienne. J'ai un spectacle aussi où on essaie de mélanger. Non, mais pas très longtemps, mais voilà. C'est aussi les ponts qu'on essaie de faire avec un pianiste, Guillaume Vincent. On essaie de faire des ponts entre musique classique, jazz, théâtre, et voilà. Donc ça, c'est aussi, il y a plein d'artistes qui font. Il y a les spectacles de Pascal Amoyel qui sont très très bien. Si jamais vous voyez passer un spectacle comme ça, il y a évidemment tous les sketchs d'Astier ou des trucs comme ça. Donc il faut pas hésiter à aller aussi suivre les artistes qui touchent à la musique classique. Quand j'en dis, je joue de l'alto. Enfin voilà, il y a plein de gens en fait qui adorent la musique classique, et donc cette approche là aussi, elle est intéressante.
Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Valentine. Armen, on te retrouve aussi, alors, donc le duo Solea, toute ta carrière de guitariste, donc, et puis surtout en parallèle depuis quelques années, Lucencar Productions. Parle-nous-en rapidement.
J'ai rien de tellement plus à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. En gros, moi, ce qui me passionne, c'est le rapport entre la musique et l'image. Donc, voilà. En gros, faire des vidéos qui sont dans la continuité de la démarche artistique de la musique qu'il y a derrière. Voilà.
Donc voilà. Si vous avez des besoins en vidéo, n'hésitez pas à contacter Armen. Ça peut être intéressant.
Avec plaisir.
Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Michel, petit mot de conclusion, peut-être.
Moi, je voulais conseiller aux gens d'aller écouter les interprétations de Rubinstein de Chopin. Moi, c'est mon préféré. Rubinstein, les nocturnes par Rubinstein, c'est incroyable. Et puis, sinon, moi, j'écoute I Love the Dead de Rachmaninov une fois par mois en direction de l'Est. C'est important.
Tu écoutes cette musique uniquement quand tu vas vers l'Est, c'est ça?
Je me tourne vers l'Est et puis je l'écoute.
Très bien, très bien.
Ça fait une quarantaine de minutes, c'est trop bien. C'est du 5-4, c'est trop cool. Et sinon, ouais, le mot de la fin, ben, merci à vous deux d'être venus.
Merci à vous
de votre invitation.
Et ouais, c'était très cool. Et désolé, Val, pour le manque d'organisation de notre part.
Mais... Le pire, c'est qu'on est dans la même ville.
Oui, ben oui.
J'avoue que je ressors un tout petit peu frustré de cette émission parce qu'en fait, on avait prévu plein encore d'autres sujets. C'est un univers tellement intéressant, la musique classique.
Oui. On a fait la moitié.
On a fait un peu plus de la moitié de ce qu'on espérait faire. Donc, vous avez une idée.
Vaut mieux que ça soit dans ce sens-là.
Et c'est vrai. Oui. Mais voilà, peut-être qu'on reviendra un jour sur le sujet. En tout cas, ne vous jetez pas sur les commentaires. Mais vous n'avez pas parlé ça, vous n'avez pas parlé ça. On a déjà parlé de beaucoup de choses.
Si.
Jetez-vous dans les commentaires mais pour nous dire.
Ouais, voilà. Toi, tu leur dis ne commentez pas. Commentez. Non, dites
pardon, Michel.
Tout ce qui vous
je te laisse faire.
La
vas-y, vas-y.
N'importe
fais
quoi.
Fais-la. C'est mieux faire, toi.
Le saint algorithme, Salomon. Dites-nous tout ce que vous avez pensé, tout ce qu'on n'a pas dit, vous le
c'est
dites.
Vrai. Non, mais en plus.
Puis en plus, c'est ça l'intelligence collective d'Internet.
En plus, t'as raison,
aussi,
c'est vrai que ça serait intéressant. Dites-nous tout ce qu'on a foiré.
Voilà.
Allez, on sera là pour répondre, pour valoriser l'algorithme, mais tout en restant poli et courtois, évidemment.
Oh bah non, c'est pas drôle.
Ça, c'est là.
Bon, Michel, Armen, Val, merci beaucoup.
Merci.
À une prochaine. On se retrouve aussi à la rentrée, ce sera à la rentrée, le prochain podcast. On va essayer de vous préparer de belles choses avec Michel. On va surtout essayer de faire cette émission dans un vrai endroit, de faire venir les gens. On sera vraiment, histoire d'avoir, avec un petit décor, un petit plateau et tout. On va essayer de bosser là-dessus et de le faire très vite, ça va être cool.
Et ça, puis... c'est sympa pour nous, tu vois. Voilà, les musiciens classiques, on va encore les inviter au moment où on n'a pas un vrai endroit.
Mais figure-toi qu'on a déjà fait un épisode All-Star, on a fait revenir des gens, vous reviendrez peut-être.
Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé.
Exactement. On essaie de se faire une petite famille autour du podcast. Quand il y aura un sujet intéressant, vous venez, puis on en discutera.
Avec plaisir.
Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.
Bye.
Salut, ciao.
Bye bye.